NoWatch.fm.
Incredible web shows.
Cet épisode vous est présenté avec la participation de Numéricable et de la boutique NoWatch. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en juillet 2011 et c'est l'épisode numéro 65. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast où on parle technologie, internet et gadgets. Je suis Patrick Béja et je suis avec Cédric Ingrand et Lionel du podcast Techno IT. Comment allez-vous, messieurs ?
Mais formidable, il fait beau, non ?
Et très, bah, très bien.
Lionel et moi sommes à Paris. Il fait traditionnellement, on dit il fait beau pour un mois de novembre.
Ouais, condoléances.
Voilà, c'est un petit peu adapté. Puisque toi, tu n'es pas à Paris, si j'ai bien compris.
Non, je suis dans la banlieue sud de Paris, vers Ajaccio.
Ah, c'est extrême sud.
Oui, un petit peu.
Parce que pendant toute l'année, avec mon camarade Olivier Frigara, on refait le Mac, et bah, pour les vacances, on refait le maquis.
Tu l'as travaillé depuis quelques temps.
Ça fait longtemps qu'on la travaille, celle-là, pour tout dire. On va finir par la faire en vrai. On va finir par le faire, le podcast, où on a, avec des cagoules, la bonbonne de gaz. D'accord. Dans le maquis un soir.
Moi, je comprends le retard, hein, pour un tel jeu de mots. C'est...
Oui, ça valait le coup. Donc, tu reviens de la plage, nous disais-tu, après ton léger retard pour l'émission.
Je suis confus. Alors, moi qui déteste attendre les gens, je trouve ça horripilant, les gens en retard. Là, je vous ai fait la totale. Et, on est en Corse, là. La valeur du temps est différente.
J'ai bien compris. Mais t'inquiète pas.
Quand on te dit, je suis là dans un quart d'heure. ouais, bon.
T'inquiète pas, on s'est amusé, distrait avec la chatroom, qui est là nombreuse sur le site NoWatch.net/live. On est en train d'inaugurer notre page live pour les émissions. On l'avait déjà faite pour le live de la keynote il y a quelques semaines. La chatroom est là, nombreuse et animée. Et donc, on s'est amusé un petit peu avec eux. Merci à vous, camarades, d'être là. Ça fait vraiment plaisir. Et aujourd'hui, on a une émission plutôt bien fournie, puisqu'on va vous parler de Google, de Facebook, de Adobe et de ses premiers résultats, de Ultraviolet. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est assez intéressant. Et de plein d'autres choses intéressantes également. Si on n'a pas d'autres introductions à faire ou questions à poser, on peut se lancer ?
Mais allons-y.
C'est parti.
C'est parti. Avec, premier sujet donc. Alors, je pense que d'ici, allez, la sortie de cet épisode, 2-3 jours après, je vais commencer à recevoir les premiers mails de gens qui me disent « Mais tu parles trop de Google+, on en a marre !»
Non, ils ont tort. On va le dire de manière préventive, ils ont tort. On ne peut pas trop parler de Google+.
Alors justement, on a quelques infos à donner sur Google+. Comme vous n'étiez pas là et qu'on aime bien avoir des avis différents et divergents, j'aimerais vous donner à chacun une petite minute pour dire très succinctement ce que vous pensez de Google+. Alors, pour Cédric, je sais que ça va être difficile de dire très succinctement.
Mais c'est ça, oui.
mais essayons. Donc, Cédric et Lionel qui est tous les deux sur Google+.
Oui, bien sûr. On va le faire rapide. La première fois qu'on découvre Google+, on a l'impression de regarder un clone de Facebook, mais ça c'est juste du premier coup d'œil parce que la présentation, il fait penser avec le stream, ce qui se passe sur les côtés, la liste de ses amis, même si tout est différent, parce que justement on s'aperçoit après qu'en fait tout est différent et que la façon dont on gère ces interactions est différente. C'est beaucoup plus fin. C'est comme vraiment hors tout. Là, il se trouve que c'est Google, mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre qui aurait sorti un réseau social qui aurait bénéficié comme ça du retour d'expérience de tout ce que les autres avaient fait avant, de ce que Facebook a fait, de ce que Twitter a fait. Ils ont pris les meilleures idées des autres, mais elles sont aussi là pour être prises, pour faire un produit je trouve plus abouti, plus élégant et qui va pas recréer les erreurs que les autres ont fait avant lui. Donc voilà. Et en plus, comme je l'ai dit beaucoup depuis, ça arrive au moment précis où on a tous des profils Facebook qui sont ingérables, ouais, avec vrai. Des comptes, avec plein de gens. Vous regardez la liste de vos amis et vous dites, mais qui sont ces gens exactement? Alors, vous avez essayé...
C'est le bon moment pour un reset, pourquoi?
Exactement. C'est le moment parfait pour un reset de, pour un reset de son réseau social. Et ça, c'est une sorte de bénéfice induit. Ça tient pas à la qualité du produit qui est pourtant assez massive de, par ailleurs. Mais ça fait que Google Plus est quelque chose d'extrêmement séduisant. Et ça se voit d'ailleurs dans l'utilisation que les gens en font. Moi, je suis ahuri de voir le level of engagement, comme disent nos confrères américains, sur tout ce qu'on arrive à partager, le nombre de réactions, et bah, à la fois la fluidité de l'expérience, le côté pas fouillis. J'ai par endroit, j'ai l'impression de... Souvenez-vous, avant Google, on avait AltaVista et on avait Yahoo. Et Yahoo, c'était une page d'accueil de portail avec 400 liens. Et Google est arrivé et tout à coup, il n'y avait plus que l'essentiel, la recherche, la barre, rien d'autre, pas un bandeau de pub. Et ben, j'ai l'impression que Google fait un peu à Facebook ce que Google a fait à Yahoo à l'époque.
Ah, intéressante comparaison. Ouais. Lionel, qu'en penses-tu, toi ?
Oui, alors, et là, c'est quelqu'un qui a pas de compte Facebook, enfin, qui a plus de compte Facebook, qui parle. J'en ai eu un il y a très longtemps, et puis je l'ai fermé très vite, en fait. Et ce qui est marrant, c'est que quand je me suis connecté la première fois sur Google+, moi, j'ai tout de suite été charmé par ce que vient de relever Cédric. C'est-à-dire l'élégance, le fait que ce soit beaucoup moins fouillis que Facebook, le fait aussi qu'il n'y ait pas d'application qui, pour moi, sont des applications parasites, tous ces petits jeux et tout, ça viendra peut-être.
Hein. Ouais, mais pour le moment,
mais pour le moment, il y en a pas. J'ai été aussi charmé par le côté ludique de faire du drag and drop de personnes dans des cercles.
Pour les cercles, oui.
Ça m'a vraiment, vraiment beaucoup amusé. Et puis, au niveau de la fonctionnalité, bien entendu, pouvoir dissocier ce qu'on a envie de dire avec différentes personnes, parce que comme le dit le slogan, ou je ne sais plus quel responsable de Google, on n'a peut-être pas envie de dire tout le temps la même chose à tout le monde et qu'on a envie de partager des choses différentes avec différentes personnes. Mmh. Et donc ça, c'est évidemment un des points forts de Google Plus, et il répond très bien à ce besoin. Moi, j'ai été charmé, je trouve ça simple, élégant, en effet, pour reprendre le terme de Cédric, et tout à fait attractif, ouais.
D'accord. Donc, tous les deux convaincus. Moi, j'avoue que depuis, donc ça fait quoi, 2 semaines que je suis dessus, moi aussi. Mm-hmm. Je suis également assez convaincu. Je l'ai déjà dit à l'émission précédente. Là, ça se confirme sur les 2 premières semaines d'utilisation. Comme tu le disais, Cédric, j'ai un niveau d'engagement, d'implication et de retour sur Google Plus que j'ai rarement vu ailleurs, d'ailleurs que j'ai jamais vu nulle part ailleurs, pour moi en tout cas. C'est-à-dire que si je pose une question ou si je lance une discussion sur Google Plus, contrairement à Facebook ou Twitter, on peut avoir une vraie discussion avec les gens qui nous suivent grâce à ce threading, enfin aux réponses encastrées qui sont possibles de faire à un sujet. Et ça fait des vraies discussions avec les gens. Et c'est vraiment, vraiment beaucoup plus intéressant que ce qui peut se passer sur d'autres réseaux sociaux. Donc pour moi, c'est l'attrait principal. Et je pense que les autres sont également très intéressés. Enfin, les gens, en général, l'intérêt ne meurt pas. Ne meurt pas après 1 ou 2 semaines, parce que moi, je constate, par exemple, que j'ai envoyé, à partir du moment où c'était disponible, des centaines d'invitations. Je racontais cette histoire dans Upload, mais je rentrais chez moi, il était 11h, et je vois que j'ai c'était il y a une dizaine de jours, et je vois que les invitations sont disponibles. Et là, je me dis, bon, je vais être sympa, je vais essayer d'inviter quelques personnes. 11h du soir, un vendredi, je me dis, bon, il va pas y avoir 1000 personnes non plus. Donc, je vais sur Twitter, et je dis, si vous voulez une invite Google+, envoyez-moi votre adresse email en atreply, je vous invite. Ok. À ce moment, les invites étaient encore difficiles à obtenir. Le module d'invitation apparaissait et disparaissait de manière un petit peu ésotérique. On savait pas trop comment ça marchait. Et bon sang, là je fais un facepalm. Hein, ceux qui nous regardent pas en live voient pas, mais voilà, ça c'est le bruit du facepalm. Qu'est-ce que j'ai pas fait, quoi. J'ai passé l'heure suivante à inviter des dizaines et des dizaines de personnes copier-coller de l'adresse email à la main, et je voulais le faire parce que je me dis, j'ai pas souvent l'occasion de d'aider les gens et de filer des trucs aux gens qui nous font l'amitié et la gentillesse de nous suivre tout le temps, et là c'était vraiment une occasion, un truc qui était hyper demandé. Mais 2 jours plus tard, je recevais toujours des demandes pareil sur Facebook, enfin bref, Mais la demande est hyper élevée et ça a été confirmé par la conférence de presse pour les quarterly earnings, les gains trimestriels, enfin
la conférence de presse financière, voilà. Oui, bien sûr,
trimestrielle de Larry Page, qui a confirmé qu'il y avait eu en 2 semaines 10 millions d'utilisateurs de Google Plus.
Ouais, c'est une bêta version à la Google.
Ouais, c'est ça.
On va faire une bêta fermée pour 10 millions d'amis.
Entre parenthèses, ouais, un peu. Entre parenthèses, pour ceux qui sont impatients d'avoir d'accéder à Google Plus, si vous n'avez pas réussi à choper une invitation encore, elle sera publique. Le produit sera public et ouvert le 31 juillet. Donc, il n'y a plus beaucoup de temps à attendre. Et il faut voir aussi. Alors, 10 millions, c'est énorme. Certains l'ont comparé à Facebook, par exemple, ou à Twitter. C'est une comparaison qu'il n'est pas vraiment cohérent de faire parce que ça vient de commencer et tout le monde arrive un petit peu curieux dessus. Ce qu'il faudra voir, c'est dans quelques mois, voire un an, si les utilisateurs restent actifs sur le service. Mais c'est clair que 10 millions, c'est énorme. Je veux dire, en deux semaines, par invitation seulement.
En termes de capillarité, parce qu'évidemment tout ça se développe, c'est exactement ce qui est arrivé quand il y a eu ce point d'inflexion, par exemple entre MySpace et Facebook. En fait, le réseau social, c'est là où les gens vont, c'est bête à dire. Et où vont les gens? Les gens vont là où sont leurs amis. Ouais. Donc forcément, si vous ouvrez un compte, vous allez suivre l'ami qui vous a invité, et puis après vous allez inviter tous les vôtres. Donc il y a un côté exponentiel qu'ils ont voulu maîtriser depuis le début pour pas se retrouver avec 50 millions d'utilisateurs du jour au lendemain, parce que j'imagine que ça doit avoir des impacts en termes de plateforme technologique derrière.
Mais Lionel saura dire ça
mieux que nous deux.
Tu dis 50 millions en faisant presque une plaisanterie, mais du coup, on est à 10 millions, ce qui est pas tellement loin, quoi.
On était à 1 million il y a 10 jours. Enfin, ouais. Là, pour l'instant, ils rajoutent en gros 1 million d'utilisateurs par jour. Et en plus, de manière exponentielle, c'est une moyenne lissée sur les quelques jours ou semaines qu'on a de recul. Donc, oui, je sais pas. Je pense que quelqu'un doit avoir le doigt sur le robinet pour ouvrir, fermer au fur et à mesure de la croissance, parce que c'est difficile à gérer. Même si ça va, les grosses plateformes techniques chez Google, ils savent gérer.
Ouais. Damien Rossel dans la chatroom dit toutes les personnes qui ont un compte Gmail ont direct le compte Google Plus. Alors ça aide à avoir les 10 millions, non? C'est pas le cas, Damien.
En fait, il y a,
je crois, c'est combien, 150, 160 millions de comptes Gmail, quelque chose comme ça.
Oui.
Mais même ces gens-là, donc si tout le monde, tous les détenteurs de comptes Gmail avaient un compte Google+, on serait beaucoup plus haut. Mais c'est pas le cas. Il faut ouvrir un compte Google+ spécifiquement. C'est pas automatiquement ouvert pour tous ceux qui ont un compte Gmail.
Même si apparemment ça aide d'avoir un compte Gmail et ça aide d'avoir un profil Google déjà rempli.
Bien sûr. Mais il faut quand même faire l'action d'aller ouvrir son compte Google+.
Ah oui, clairement. Mais les critères sur lesquels vous aurez accès immédiatement sans invitation, etc., au compte Google Plus ou pas, ne sont pas publiés par Google.
Ouais.
C'est un peu comment être premier dans les résultats de recherche. Ça non plus, c'est pas vraiment publié pour éviter que des gens game the system, comme on dit. Mais du coup, c'est amusant parce que moi, j'avais lancé une sorte de mini sondage sur Google Plus en disant bon, comment vous avez tous fait pour avoir votre compte? Vous avez eu une invite, pas d'invite? Vous aviez un compte, pas de compte? Les résultats sont mitigés. Alors on dit que Google a listé des centaines voire des milliers de comptes de gens qui par exemple avaient déjà un réseau social important sur d'autres réseaux, que ce soit Twitter ou Facebook, mais on sait pas trop comment ils ont fait la correspondance avec le Gmail. Enfin, voilà, tout ça est compliqué, mais évidemment oui, ça va se résoudre d'ici la fin du mois de juillet.
Entre parenthèses, tu parlais de technicité de la chose il y a quelques minutes. Il y a eu un moment de panique assez amusant il y a quelques jours quand les notifications ont commencé à être envoyées en double, en triple, en décuple par Google+. Et Vic Gundotra, qui est l'un des responsables de cette bestiole,
c'est même le chef,
le papa.
Ouais.
A annoncé sur Google+, désolé, en fait, on a été à court de disques durs, d'espace disque.
C'est énorme.
Et donc...
C'est incroyable.
Ce qui est invraisemblable, parce que bon, donc ça a vraiment dû grossir plus vite qu'ils ne le pensaient.
À cet instant précis, il y a des gens qui sont en train d'installer des piles de serveurs les uns sur les autres chez Google, dans des centres serveurs qui sont en plus répliqués, à mon avis, dans plusieurs endroits de par les États-Unis et de par le monde, pour arriver à suivre la croissance de Google+. C'est rigolo parce que on oublie très souvent les impacts physiques de ce genre de choses. C'est-à-dire YouTube, hein, c'est des camions et des camions et des camions de disques durs qui sont partout. C'est des ingénieurs réseau. Enfin, en fait, il y a quand même des impacts assez monstrueux parce qu'en plus, ça a ce côté absolument absolument exponentielle. C'est-à-dire que quand tu parles à 10 personnes qui parlent à 10 personnes qui parlent à 10 personnes, bah, ça fait 1000 personnes. C'est bête, hein.
C'est marrant d'ailleurs cette histoire d'exponentiel parce que Zuckerberg avait parlé de l'aspect exponentiel et enfin de, du fait que les humains avaient beaucoup de mal à visualiser les extensions exponentielles et il enfin bref bon je me c'est ça n'a aucun
on se comprend
oui on se comprend ceux qui ont entendu la chose feront ah ouais c'est vrai et les autres s'en foutent
mais Zuckerberg il s'est désexponentialisé. En clair, il a fermé son compte Google Plus.
Ah, il l'a fermé, j'avais pas vu ça.
A priori, il n'existe plus. C'était lui qui avait le plus d'amis ou de followers, même si là aussi, il faut retrouver le paradigme qui fonctionne.
Il a dû le rouvrir sous un nom moins.
C'est possible, ou il a dû trouver que ça faisait des ordres, qu'il attire des gens sur Google Plus pour aller chercher le compte de Mark Zuckerberg, ce qui de fait était un peu particulier. D'autant que au tout début de Google Plus, il paraît qu'on pouvait pas s'inscrire si on avait une adresse @fb.com, c'est-à-dire une adresse corporate de Facebook.
Oui, si vous trouvez Charles Zuckerberg, c'est peut-être lui. Lionel, je t'ai interrompu au moins 12 fois et tu vois, t'es pas assez pressant. Tu devrais carrément prendre la parole et me la voler.
Parce que personne ne te la donnera. Donc,
c'est clair. Je vous vole la parole. Non, je voulais juste dire une petite réflexion qui m'est venue en vous écoutant parler. Et les rendez-vous tech en fait se suivent, mais ne se ressemblent pas vraiment parce que je sais pas si tu te souviens, Patrick, il y a quelques numéros de cela, on s'apitoyait sur le sort de Google en disant mais qu'est-ce qu'ils font, ils sont au fond du trou, ils n'ont plus d'idée, ça va plus, au secours, où est l'esprit d'initiative de Google, qu'est-ce qui est devenu ce qui faisait la force de Google au début, etc. En 15 jours, parce qu'il y a Google Plus mais il y a aussi d'autres choses, en 15 jours ils nous ont prouvé qu'on avait tort, mais alors d'une façon assez extraordinaire.
C'est vrai. Je me demande s'il faut pas y voir le changement de leadership et l'arrivée de Larry Page à la tête de la société. C'est peut-être un petit peu vite fait d'arriver à cette conclusion, mais
bon, ouais, en tout cas, il est clair que le projet a été initié avant le passage de flambeau entre Eric Schmidt et voilà. Et on le voit bien, il y a ce sublime papier très long dans Wired, écrit par cet auteur dont le nom m'échappe,
qui suit
le projet depuis maintenant un an. Et on sent bien que c'est un énorme projet et qu'en plus, on n'est qu'au début. On a commencé à tirer les chevaux du truc, à dérouler les chevaux. Et il y aurait encore une centaine de fonctions, de features qui arriveraient dans les semaines, les mois, voire l'année à venir.
Bon, avançons un peu. Toujours pour parler de Google, entre parenthèses, Larry Page a dit qu'il y avait 1 milliard de choses partagées par jour sur Google+. Ce qui me paraît quand même... Enfin, 1 milliard pour 10 millions de personnes, ça fait 100 choses partagées, entre guillemets, par personne et par jour.
Oui, mais si je partage une chose à 2000 personnes, ça fait 2000 partages.
Ah, c'est pour ça, d'accord. Ah oui, bon, ok, facile.
Puis t'as les messages, t'as tout, enfin bon, ça dépend ce qui met
plus
dans
les trucs, oui.
Voilà. Ouais, le bouton plus 1 serait affiché 2,8 milliards de fois par jour. sans que là encore, ça ne veuille dire grand chose.
Oui, c'est vrai, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Ça ne veut rien dire, c'est juste pour dire 2,8 milliards.
C'est un chiffre qui inspire juste le silence, genre, oui. Oh, wow, voilà,
c'est juste ça, c'est pour que les gens fassent 2,8 milliards! Une autre chose qui a fait taire un petit peu les critiques de Google, c'est les brosses à dents. En fait, Larry Page a expliqué qu'il voulait créer des services qui étaient comme des brosses à dents, c'est-à-dire des choses dont on sert tous les jours, dont on sert tous les deux jours.
Non, deux fois par jour.
Deux fois par jour.
Pardon, oui, c'est ce que...
Tu te brosses les dents tous les deux jours.
Déjà, c'est trois, normalement.
J'en prends bonne note.
Ah là là, d'accord. Bon, alors celle-là, je pense que je vais jamais pouvoir m'en remettre. Je lisais le truc en anglais, donc forcément, ça... Bon, bref. Donc, j'ai trouvé cette remarque marrante. C'est, pour moi... une manière de voir la mission de Google de manière intéressante. Parce que comme tu le disais, Lionel, on avait l'impression qu'ils avaient un petit peu perdu leur focus, leur concentration. Et se dire on veut faire des trucs simples dont les gens servent deux fois par jour, ça recadre un petit peu les choses. Donc,
oui, c'est vrai.
Mais en fait, l'énorme différence qu'on devine mais qu'on voit pas encore entre d'ailleurs la question qu'on se pose depuis le début, c'est est-ce qu'il faut comparer Google Plus plutôt à Twitter ou plutôt à Facebook? Moi, je dis c'est plutôt aux deux, même si j'ai tendance à penser que
Toi t'allais vers Facebook.
Moi j'ai tendance à penser que celui qui a le plus à perdre à Google Plus, c'est quand même Facebook, parce que je vois pas maintenir les deux en même temps, alors que je peux me voir. Et puis Twitter est un service plus ouvert, donc on peut imaginer que par le biais des APIs qui vont arriver, des interfaces de programmation, du SDK, etc., on pourra mettre à jour son Google Plus en même temps que son Twitter, pas forcément son Facebook, ça c'est un peu plus compliqué. Mais l'immense différence, c'est que le modèle économique est vraiment différent. C'est-à-dire que pour Google, Google Plus n'est pas juste un support de plus sur lequel on pourra à terme mettre de la publicité, même si ça le sera probablement, mais c'est quelque chose qui permet d'affiner de manière magistrale ton profil d'utilisateur sur Google, plus encore qu'on arrivait à le faire au travers de tes recherches, ton Gmail, etc., etc. Et donc, hopefully, te servir des pubs plus intéressantes sur lesquelles tu cliquerais, pourquoi pas plus souvent, sans pour autant forcément te servir plus de pubs. Donc le modèle chez eux, en tout cas, c'est comme ça qu'ils l'expliquent aujourd'hui. Ils disent évidemment, il nous faut un outil social parce que ça nous permet, d'arriver à cerner des centres d'intérêt, Et je sais plus qui disait, ce qui était très méchant pour Facebook, qui disait, si vous êtes sur un site et que le site est gratuit, c'est la marchandise, c'est vous.
C'est tout à fait vrai.
Bah oui, c'est vrai qu'il y a un peu de ça, et c'est vrai que sur Facebook, ça commence à se sentir.
Pour parler de sous,
vous qui avez des comptes Facebook, vous faites les deux là, vous faites Google Plus et Facebook en même temps, simultanément, ou vous avez laissé un peu tomber Facebook ou?
Bah c'est compliqué, honnêtement. Pour l'instant, je continue tout, mais en me disant que ça peut pas durer de manière éternelle. Donc soit il va y avoir des outils géniaux, soit j'imagine qu'elle
sismique.
Évidemment, j'imagine. Tu dis ça à l'instant où je clique sur mon onglet sismique. j'imagine qu'à l'heure qu'il est, Loïc Lemeur a planté sa tente devant chez Google, devant Google.
En attendant les API,
C'est ça, pour leur mettre une pression amicale, pour qu'ils lâchent les API, pour que son outil sismique, dans toutes ses versions web, desktop, etc., etc., puisse mettre à jour Google Plus comme il le fait aujourd'hui sur Twitter et sur Facebook et sur tous les autres services. Sismique sera probablement pas seul dans l'histoire, mais là, Sismique sera assez fort parce que TweetDeck, par exemple, a été racheté par Twitter, donc on voit mal Twitter améliorer son produit pour mener ses utilisateurs vers Google+. Ce serait un petit peu
c'est exactement ce pourquoi Sismique a été recentré sur les réseaux sociaux, c'est pour avoir une portée sur plusieurs réseaux sociaux. Et aujourd'hui, avec Facebook et Twitter comme réseaux principaux, il y avait aussi LinkedIn et d'autres, mais c'est différent. Et là, ça serait exactement le truc qui ferait que un outil comme Sismique est encore plus valable et intéressant pour les utilisateurs.
Ah oui, pour Sismique, Google Plus, c'est du pain béni, mais il faut que ces fameuses API sortent. Oui. Et puis, ces API, elles vous permettent de faire plein d'autres choses, parce que dans les fonctions que moi j'adore sur Google Plus, il y a le Hangout, sorte de chatroom en vidéo dans laquelle on invite ses amis, qui est un truc absolument remarquable et encore là, magistral techniquement. Google Plus a aussi servi à nous rappeler que Google, ça va faire du très beau logiciel.
C'est sûr.
Et quand on voit
Le jour où il est possible de faire un hangout public dont on peut regarder la vidéo, enfin faire voir la vidéo au public sans qu'il puisse forcément participer, ça sera un outil de podcasting assez formidable.
Ah bah le jour où tu peux faire un hangout où tu dis j'invite ces trois personnes là et par contre tous les gens à côté peuvent venir regarder la vidéo et commenter en live, etc. Ça va être un outil mais absolument remarquable quand tu vois la difficulté qu'il y a à le faire sous iChat, sous Skype, etc.
Pour ma part, j'utilise les trois et j'ai presque envie de dire les quatre parce que sur Facebook, j'ai ma page publique et ma page privée. Mais clairement, bon, Facebook, j'en suis plus hyper fan. J'y suis un petit peu parce que tout le monde y est, enfin comme tout le monde, quoi. Je suis convaincu qu'avec 700 millions d'utilisateurs et plus, il est incontournable quoi qu'il arrive et il le restera longtemps. Twitter reste assez intéressant, mais Google Plus, c'est mon nouveau petit chéri quand même. En ce moment, bon, ça risque de changer. Hein. Dans deux mois, je l'abandonnerai peut-être honteusement, mais pour le moment, je suis quand même très très heureux sur Google Plus. Et c'est surtout parce que j'interagis avec les gens, quoi. Comme je le disais tout à l'heure, quand je poste un truc sur Google+, c'est pas juste un truc lancé à la mer, c'est des gens qui vont réagir, qui vont me dire pourquoi je dis des bêtises, qui vont m'expliquer des trucs, me donner des infos liées à ce truc-là, juste déconner un petit coup ensemble, enfin voilà. Et pour conclure sur Google+, on a quand même fait un petit moment dessus, mais encore une fois, c'est un sujet qui est un sujet hyper important dans la sphère technophile en ce moment, donc c'est incontournable, hein, comme Twitter à l'époque ou d'autres, ou Apple par moment, enfin voilà. Mmh. Pour conclure, sur Google en général, si vous vous inquiétiez pour Google, parce que comme le disait Lionel, on disait « Oh, Google, ils savent plus quoi faire, ils ont perdu la magie et tout », vous inquiétez pas trop, ils ont eu 36% d'augmentation dans leurs bénéfices trimestriels, donc déjà qu'ils faisaient pas trop peu d'argent, ils en font encore plus. Donc ça va.
Non, mais ça, c'est la différence entre le bruit et le business. C'est-à-dire que ouais. Ça fait 10 ans qu'on dit que Microsoft est mort et ils ont profité des 8 dernières années pour doubler leur chiffre d'affaires. Donc, voilà. Non, mais c'est ça. On s'inquiète toujours un petit peu trop vite. Non, tout va bien.
Alors, pour parler des trucs, vas-y Lionel.
Ouais, une petite pensée pour les employés de Google quand même, qui voyaient leur prime conditionnée au succès de Google+.
20% de la prime.
Ouais, voilà, une partie de leur prime. Donc bon.
Ouais, ça tous les bonus conditionnés au succès du social ouais. Chez Google. Alors évidemment, tant qu'on n'avait pas vu Google+, on se disait flûte les pauvres, comment ils vont faire. Maintenant, je crois qu'on a compris pourquoi ils avaient pas l'air si inquiets que ça.
Ça a l'air bien barré.
C'est terrifiant Google+ depuis qu'on a commencé à en parler. Il y a 14 personnes qui m'ont ajouté. C'est terrifiant.
Ah non, mais tu sais que moi au début sur Google+, bon, je suis désolé hein les gars, mais c'est vraiment un truc qu'on analyse avec passion parce que il se passe rarement des choses aussi intéressantes et importantes dans le monde de la technologie, c'est ce que je disais la dernière fois et on se moquait de moi, mais
à la fin de cette année, si on te demande qu'est-ce qui s'est passé d'important cette année, tu diras pas les pattes de
c'est clair, voilà. C'est terrible, mais enfin bon, et moi donc
c'est terrible.
Non mais c'est terrible de se dire que enfin bref, alors, je vais pas m'enfoncer. Je voulais dire terrible dans le sens c'est incroyable.
Ouais. Ceux qui savent de quoi tu parles comprendront ce que tu veux dire.
Moi, à chaque fois que je me connecte sur Google+, j'ai genre 50 nouvelles personnes vous ont ajouté, 100 nouvelles personnes vous ont ajouté. Au début, je croyais que c'était un bug qui comptait plusieurs fois les mêmes personnes. Et puis, je me suis rendu compte à quel rythme le nombre de mon chiffre de personnes qui m'ont ajouté augmentait. Et je me suis rendu compte que c'était pas un bug, quoi. J'ai genre 4 à 5 000 personnes qui m'ont ajouté sur Google+. Et sur Facebook, pour vous donner une comparaison, il y a en un an et demi, depuis que j'ai créé ma page de fan, un an ou un an et demi, il y a peut-être 1500 personnes qui sont venues sur Facebook. C'est invraisemblable. Et d'ailleurs, pour vous donner un exemple de l'interaction et de l'utilisation qu'on peut faire avec de Google+, j'avais posé une question hier, dimanche, je m'emmerdais. J'ai demandé qui me suit aussi sur Twitter et sur Google+. J'ai lancé la question. Il y a eu, je sais plus, peut-être 250-300 réponses. Et il y a des gens, une personne qui a commencé à faire une compilation des résultats avec des pourcentages et tout ça. Moi, j'ai repris la chose ensuite, j'en ai refait. C'était hyper intéressant. J'ai fait aussi une sorte de prototype d'interface Google Plus améliorée que j'aimerais voir. Et je l'ai mise, non pas dans une présentation sur une page web ou un truc comme ça, je l'ai lié depuis mon blog, hein, mais c'est un album sur Google Plus qui est hyper bien foutu. Enfin, ça regorge de possibilités, c'est incroyable. Bon, allez, on passe à autre chose. Mais on ne quitte pas les réseaux sociaux. On va vous parler de Facebook et un petit peu de Google+. Un type s'est mis un truc marrant pour se détendre. Il y a un type qui a fait une pub sur Facebook pour dire « Ajoutez-moi sur Google+. »
Succès garanti.
Et qu'est-ce qui s'est passé ? Facebook a banni la pub. Et il a banni toutes ses pubs à ce pauvre gars. Ils ont aussi banni et désactivé les outils qui vous permettaient d'exporter vos amis de Facebook et de les intégrer à Google+. Enfin, on sent qu'ils sont pas à l'aise quand même dans leur pompe chez Facebook. Ils ont jamais été super sympas non plus et ouverts à l'origine. Mais là, ils sont quand même un petit peu en train de sentir qu'il y a un truc qui se passe.
Ils viennent fébriles un peu.
Oui. Ils sentent quand même, en fait, ils sont tellement concentrés sur la monétisation de leur audience, qui est logique, normale et légitime, que là, on s'aperçoit que même juste sur la qualité du produit, ils sont un tout petit peu endormis sur leur laurier. Ce qui est incompréhensible parce qu'ils emploient maintenant quand même des armées de développeurs. Ouais. Donc, il n'y a pas de raison que Facebook soit moins bien que tout ce qu'on peut voir ailleurs. Mais je pense que Google Plus sert aussi à leur rappeler ça.
C'est sûr.
Et l'annonce de l'intégration de Skype fait un peu pétard mouillé, quoi.
C'est vrai.
Il y aurait pas eu ce qui se passe en face, on aurait dit waouh, génial, t'as vu, il y a Skype dans Facebook. Et tout à coup, c'est genre ouais, ok, so what. Enfin, je veux dire, mais c'est oui, bien. Bah, non, c'est vrai, bien c'est les ça. Gars, mais bon, c'est pas.
Deux choses à faire remarquer à ce propos, quand même. D'une part, il est facile pour Google de dire, même s'ils font des gros efforts et vraiment sincère pour l'ouverture de leur service, notamment avec Google Takeout dont on avait parlé la dernière fois, c'est facile pour eux de dire « Ah ouais, mais nous on est ouverts, on vous laisse exporter vos amis ou importer vos amis, pas de problème ». Forcément, c'est les concurrents, c'est les challengers. Mmh. Donc, faut quand même garder à l'esprit que c'est facile pour le challenger, c'est dans son intérêt de dire « Ah ouais, tout le monde devrait être ouvert ». Tout le monde, forcément, et la personne qui a le réseau dominant. Donc, ça les sert. D'un autre côté, il faut pas non plus trop vite enterrer Facebook. Je pense que personne le fait, hein, mais on aurait tendance à croire que Facebook est un petit peu vieillissant et peut perdre de sa force. Ça pourrait être vrai, mais je pense qu'il ne s'endorme pas du tout. On a deux exemples aujourd'hui. Enfin, Zuckerberg disait encore une fois dans cette conférence sur Skype que aujourd'hui, les chiffres de Facebook, quand il a annoncé 750 millions d'utilisateurs mensuels, il a dit, les chiffres sont plus tellement importants. On a atteint notre taille maximum, entre guillemets. Aujourd'hui, il faut développer les services qu'on offre à ces personnes-là. Et même si c'est un petit peu un moyen de dire, bon, bah, on sent que ça va plus trop grossir, donc essayons de déplacer l'emphase des chiffres en eux-mêmes et parlons d'autre chose, il y a quand même un petit peu de vrai là-dedans. Et il s'endorme pas, comme on disait. Il y a d'une part, on savait qu'il travaille certainement avec Spotify. D'ailleurs, c'est le cas, ça a été lancé Spotify aux États-Unis enfin. Facebook fait partie de l'histoire. Il travaille certainement avec des fournisseurs de vidéos, que ce soit télévision ou cinéma. C'est les rumeurs qui courent. Il y a aussi des rumeurs qui courent sur des éditions des journaux qui seraient disponibles sur Facebook. Donc, encore une fois, cet esprit de meubler tout ce réseau social qu'ils ont acquis pour que les gens y fassent quelque chose d'actif, qui serait extrêmement important. Et encore un autre aspect, ils ont sorti Facebook for Every Phone, qui est un service dont on parlait depuis un moment, que moi j'avais tenu à mettre en avant, qui est un service qui permet à des gens qui ont des feature phones, qui sont beaucoup moins avancés, des petits Nokia, les machins comme ça, qui pourront aller sur une version un petit peu simplifiée de Facebook gratuitement pour une période donnée chez certains et pour plus longtemps chez d'autres. Ils ont travaillé avec les opérateurs de téléphonie mobile pour certains pays moins avancés technologiquement. Et ça, c'est un marché énorme et c'est un autre facteur de croissance pour Facebook qui fait que ils ont c'est un lion qui est pas vraiment endormi du tout, Facebook, et on aurait tort de penser que c'est le cas.
Ah mais bien sûr, il leur reste encore des territoires de croissance énormes. Quand tu regardes, je sais pas, l'Indonésie, l'Inde, qui sont évidemment des espaces où si tu dis, ouais, mais regardez, il suffit d'avoir un iPhone 4. Ouais, mais non, mais ça n'a pas de sens en Indonésie ou en Inde. Alors que, en revanche, tout le monde a un téléphone là-bas déjà dans la poche, puisque c'est souvent le seul téléphone parce que c'est plus simple que d'avoir du filaire. Mais là, évidemment, ça va se faire au travers d'applications Java un peu plus simples. Et évidemment, en travaillant avec, un, les opérateurs et deux, les constructeurs, ils peuvent s'assurer d'être sur tous les téléphones parce que ça devient un avantage différenciant pour le constructeur ou pour l'opérateur qui vous donne du Facebook dans votre forfait.
Oui, c'est une chose qui était en préparation depuis longtemps et qui, à mon avis, est très très importante. Bien sûr, pour nous, ça va pas nous changer la vie, mais pour Facebook en général, c'est quelque chose d'important.
C'est énorme.
Microsoft, visiblement, n'est pas complètement endormi non plus au niveau des réseaux sociaux. Il s'est passé un truc marrant il y a 2 jours. il y a quelqu'un qui était en train de, enfin, il y a des gens qui ont vraiment pas grand chose à faire. Un type qui regardait
les ils sont nombreux sur Internet.
C'est pas faux.
Les gens qui ont trop de temps libre, ils sont très nombreux sur Internet.
C'est pas faux. Un type qui regardait des noms de domaines. Qui était propriété de telle ou telle grande société, et il a trouvé un nom de domaine qui est socle.com, social en quelque sorte, c'est socl.com, qui était en fait, qui redirigeait vers une propriété de Microsoft qui s'appelait, comment ça s'appelait déjà,
Tulalip,
voilà, Tula, je l'ai même écrit dans les notes, Tulalip, qui donnait une page où ils expliquaient que ça serait une sorte de réseau pour que les gens trouvent et partagent, enfin de service pour que les gens trouvent et partagent des choses sur le web. Donc en gros, un réseau social, peut-être un mix entre Bing et un réseau social, bref. Quelques heures plus tard, les choses disparaissent, cette page disparaît, et elle est remplacée par le texte suivant. Thanks for stopping by. Socle.com is an internal design project from a team in Microsoft Research, which was mistakenly published on the web. We didn't mean to, honest. Ce qui veut dire, merci d'être passé. Socle.com est un projet de design interne d'une équipe de Microsoft Research qui a été publié sur le web par erreur. Sérieusement, on voulait pas le faire.
Mais hein, qu'est-ce qui leur a pris, quoi? C'est énorme. Parce que d'ordinaire, quand tu essayes quelque chose tout seul dans ton coin, tu mets ça sur un serveur interne. Alors, ça veut peut-être dire qu'eux aussi ont une bêta privée, par exemple.
C'est possible. Oui.
Mais que la page d'accueil n'a pas été protégée. Enfin, voilà, il y a forcément quelque chose de cet acabit. Mais c'est vrai que c'est rigolo, le côté oups, pardon, on voulait pas du tout vous montrer ça. Et, enfin, c'est énorme, quoi.
C'était assez drôle, oui. Donc, peut-être un réseau social chez Microsoft. Entre parenthèses, Google Disco, Pool Party et Photovine. Google Disco, c'est un service de mini-messages. Pool Party et Photovine, ouais. On ne sait pas exactement si c'est le même ou pas, mais c'est des services de partage de photos, sont aussi encore en développement. Donc, il se passe des choses dans le monde des réseaux sociaux et c'est plutôt intéressant et motivant à suivre.
Juste un mot. Photovine, j'aime bien le slogan de Photovine qui est planter une photo et regarder-la grandir, quelque chose comme ça.
Ouais.
Et c'est assez intéressant comme concept. On va voir ce que ça peut donner dans la vraie vie, mais en action. Bah,
la vidéo qu'ils ont montrée, je voulais pas en parler, mais bon, puisque t'en parles, allons-y. La vidéo qu'ils ont montrée au public, c'est un. Ça pourrait être un concept plus ou moins intéressant, c'est-à-dire qu'on met une photo avec un thème disponible pour tout le monde, et les autres vont mettre une photo avec le même thème. Il y aurait une sorte de système de mots-clés très intégré au système, et votre photo se grosse. Quand il dit votre photo grandit comme une plante, d'où la vigne de la photovigne, quoi. Le service mettrait ensemble des photos d'autres personnes et peut-être proposerait aux autres de mettre des photos sur le même thème, etc. Donc quand vous avez mis une photo il y a un moment, vous revenez et vous voyez plein de photos associées à la vôtre. Bon, peut être marrant.
Un truc, parce que tu disais le fameux domaine, enfin Tulalip, lâché un peu prématurément par Microsoft, il y a une autre chose qui s'est passée cette semaine, c'est que quelqu'un, là encore, qui surveille les noms de domaines que déposent les sociétés, a vu deux nouveaux noms de domaines déposés par Microsoft. Le premier, c'était microsoft-sony.com, et le deuxième, c'était Sony, S-O-N-Y, hein, comme Sony-microsoft.com. Donc évidemment, tout à coup, que se passe-t-il? Microsoft s'apprêterait-il à racheter Sony? Ce qui est la seule explication logique
au fait que
Microsoft dépose Sony dans un .com. Enfin, c'est... Et on a eu le droit à un message sur Twitter d'un des responsables de la com de Microsoft qui dit genre non, circuler, il y a rien à voir, c'est juste de la protection de marque normale. Enfin, je suis pas sûr qu'on soit arrivé au bout de cette histoire parce que je ne vois pas de justification logique en tout cas au fait que Microsoft dépose Microsoft Sony. Certains ont dit oui, ils vont peut-être faire une campagne de pub comparative.
Ce
serait Xbox-PlayStation ou PlayStation-Xbox. Et Microsoft,
mais l'explication L'explication de Microsoft va racheter Sony n'est pas plus crédible, hein, non plus. Donc,
mais il faut y réfléchir. Ces gens sont assis sur énormément de cash. Ils se sont aperçus que finalement, les initiatives qu'ils ont eues en hardware, comme la Xbox et le reste, ça marche pas mal. Que l'intégration du hardware et du software, ça marche pas mal. Regardez chez Apple. Et que, en plus, on arrive à un endroit. Moi, il y a une question que je posais dans un autre podcast il y a pas longtemps, qui était, Apple est assis sur 70 milliards de dollars de cash. À quoi ça sert d'avoir 70 milliards de dollars de cash? Et là, tout à coup, les choses se sont un petit peu connectées dans ma tête quand j'ai lu que Sony, aujourd'hui, ça vaudrait environ 70 milliards de dollars.
Oui, mais est-ce que tu préfères avoir 70 milliards de cash ou Sony, franchement? En ce moment, moi, je dirais... Ça, 70 milliards, ça me convient plus. Hein.
Faut pas oublier deux trucs. Faut pas oublier que le seul fantasme dans la vie de Steve Jobs, c'est d'être Sony.
Excuse-moi, je t'interromps. Okay. Fabéric dans la chatroom dit, ça sert à racheter la Grèce. Effectivement, ça oui, pourrait nous aider.
Oui, mais la question, c'est tu préfères avoir 70 milliards de dollars ou la Grèce?
Oui, bon, là, effectivement. Oui, pardon, bon, tu disais, son rêve, c'est, le rêve de Steve Jobs,
c'est d'être Sony. Donc, pourquoi pas le racheter? Donc, est-ce que ce serait préventif de la part de Microsoft pour dire, ah, donc, il est hors de question que Apple rachète Sony? Ça, c'est pas possible.
On nage dans le fantasme.
Oui, mais on en revient à cette histoire de nom de domaine qui, pour l'instant, n'a aucune explication logique.
On va enchaîner avec... Alors, est-ce qu'on parle d'Adopi ou on parle du sponsor? Je vous propose qu'on parle du sponsor parce que ça fait quand même une bonne demi-heure qu'on s'est lancé. Donc, faisons une petite pause avec notre sponsor, Numéricable. Vous connaissez Numéricable, on vous en parle régulièrement. Eh bien, je vais vous en parler... Encore une fois, parce qu'il y a une fonctionnalité Numéricable que vous ne connaissez peut-être pas, on en a parlé plusieurs fois, mais ça fait un moment, c'est la fonctionnalité du double modem. Vous savez que quand vous avez un fournisseur d'accès Internet, il vous fournit un modem qui vous permet de vous connecter à Internet. Jusque-là, tout va bien. Eh bien, Numéricable vous fournit deux modems. En fait, vous avez Internet jusqu'à 100 mégas avec la fibre et une deuxième connexion qui est totalement indépendante. C'est-à-dire que ça n'est pas la même bande passante. Vous pouvez faire des choses sur une de vos connexions et faire plein d'autres choses sur l'autre connexion sans que les deux, l'une ne perturbe l'autre. Donc la première est a priori pour votre ordinateur, la deuxième sur votre décodeur TV qui est à 30 mégas, celle-là maximum. Et cette offre est valable pour les forfaits NC Box et qui sont adaptés à tous vos besoins. Par exemple, le NC Box Power, c'est 150 chaînes et services, dont 15 chaînes HD. Vous avez également, comme je le disais, Internet 100 mégas et le téléphone illimité vers les fixes et les mobiles. Vous pouvez également ajouter un abonnement illimité mobile dont on vous a parlé plusieurs fois déjà de chez Numéricable. Donc, si vous êtes un consommateur d'internet et de podcast, par exemple, hein, au hasard, et que votre petit frère joue sur la télé et que vous dites, mais arrête de m'embêter avec ta connexion à toi, que sur notre connexion d'aujourd'hui, ça me ralentit la vision de mes podcasts, eh ben, pensez à Numéricable parce que là, vous avez deux connexions totalement indépendantes et c'est quelque chose d'assez exceptionnel dans le marché des fournisseurs d'accès internet. On remercie Numéricable. Et on vous invite à aller les voir en passant par notre portail nowatch.net. Vous cliquez sur la bannière Numéricable. Ça vous donne des informations sur Numéricable et ça leur indique que vous êtes passé par chez nous. Donc ça nous aide énormément aussi. Merci à vous et merci à eux. On enchaîne après ce petit message du sponsor sur les nouvelles d'Adopi. Est-ce que vous avez lu ces nouvelles d'Adopi ou est-ce que je le fais... moi-même, le petit résumé.
Ah bah, le résumé, il est simple, c'est qu'Adopi a publié des chiffres. Voilà. Ce qui était quelque chose qu'on demandait depuis assez longtemps, enfin, de manière assez constante. Alors, on avait eu des chiffres par bribes, et là, ils ont publié, en gros, le tableau de bord de l'activité. Mais je te laisse détailler les chiffres.
Ah, d'accord, ok. T'es parti, donc je me suis dit, ah, ok.
Ah, non, fais le job.
Donc, décidément, je ne peux pas me soustraire à ma fonction d'animateur de l'émission. Et c'est avec plaisir que je le fais pour toi, cher auditeur.
Pour toi, public adoré.
Ouais, vous sentez pas du tout que je meuble en attendant de retrouver ma page web. Donc, ils ont publié les chiffres de leur éminemment intéressante activité, qui se résume à ceci. 18 millions de constats d'infraction ont été envoyés à la haute autorité Adopi. 18 millions, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça fait, mais ça fait beaucoup. Ces 18 millions ont donné lieu, alors attention, vous vous souvenez de l'histoire de l'exponentiel dont on parlait tout à l'heure ? Là, c'est la même chose, mais inversée, c'est de l'anti-exponentiel. Donc ces 18 millions de constats d'infraction qui ont été faits par les groupes d'ayant droit ont été envoyés à l'Adopi. L'Adopi a fait 900 000 demandes d'identification d'adresse IP. Donc déjà, c'est beaucoup moins. Ensuite, à partir de ces 900 000 demandes, ils ont envoyé 470 000 premiers avertissements sur les 9 mois où ils ont exercé leur activité, 20 000 deuxièmes emails d'avertissement, enfin des personnes qui ont été dont on a constaté qu'ils étaient en train de pirater une deuxième fois. Pour finir avec le troisième avertissement qui peut déboucher effectivement sur la traduction en justice, les amendes, la coupure de l'internet et tout ça, pour, tenez-vous bien, 10 personnes. Sur ces 10 personnes, l'une des premières dont on a entendu parler, c'est un monsieur formidable qui s'appelle Robert Tolo, qui est professeur, enfin enseignant, et qui a déjà commencé à s'exprimer sur la toile en disant que il avait essayé de protéger son ordinateur avec les conseils d'Adopi, qu'il n'a jamais entendu parler ni de Rihanna ni de c'est qui l'autre dont il a été David Guetta, qui ne sont pas du tout de sa génération. Ce brave homme a une cinquantaine d'années. Il n'a jamais téléchargé le film Iron Man 2 dont il a été accusé de piratage. Enfin, il a été accusé de le pirater et il était en classe au moment où le film est censé avoir été piraté. Donc là, ce brave homme va devoir se retrouver, va devoir aller à Paris en septembre, je crois, pour aller se défendre. Et il a annoncé bien sûr que c'était complètement ridicule et qu'il ferait appel à la Cour européenne des droits de l'homme, ce qui n'est pas une affaire totalement triviale parce que la Cour européenne des droits de l'homme, enfin disons qu'au niveau de l'Europe, les instances sont plutôt favorables au fait que Internet est du genre droit fondamental, donc il n'est pas certain qu'il regarde Adopi avec un œil tout à fait favorable. Donc en gros, c'est, comment dire, c'est pas non plus un désastre, c'est un petit peu la confirmation, pour moi, hein, c'est de cette manière que j'analyse, c'est la confirmation que ce monstre Adopi coûte très cher, ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner dans l'esprit des gens qui l'ont conçu, et évidemment n'est pas absent de faux positifs, enfin d'erreurs. C'est quand même pas un bilan hyper... hyper brillant, on va rester.
Je suis pas d'accord sur un point, c'est que tu dis Adopi fonctionne pas comme l'avaient imaginé ceux qui l'ont conçu. Et là-dessus, moi, je pense que si, en fait, parce que, et on l'a bien senti pendant la création d'Adopi, c'est pas quelque chose qui était censé aboutir à des procès, par exemple, parce que pour les procès en contrefaçon, ça existe déjà, il y avait déjà tout un arsenal législatif sur la question depuis le début. Et c'est vrai qu'on le comprenait pas toujours pendant les débats qui ont mené à la création d'Adopi. Les soutiens de la loi disaient mais attendez, non, mais pour nous Adopi c'est juste une loi pédagogique qui par l'exemple doit montrer aux gens que c'est mal avec un système d'avertissement, etc.
Ils sont retombés sur ça en se, parce qu'ils veulent pas, ils peuvent pas dire on veut mettre tout le monde en prison.
Et alors là il se trouve que j'ai un peu plus d'infos là-dessus, mais il y a des trucs que je peux partager et d'autres pas. Sur le fait que non, c'était en clair, c'est les ayants droit qui sont allés voir le législateur au début en disant ce serait bien qu'il y ait un système législatif qui soit pédagogique, mais enfin en tout cas qui fasse un peu jouer la peur du gendarme au travers de systèmes d'avertissement qui évite en plus d'avoir à en passer par les tribunaux ou par des peines d'amende qui ne seraient pas très populaires, etc., etc. Mais bref, juste un peu comme c'est la différence entre le radar automatique et le radar pédagogique sur la route, tu vois, le truc qui te dit attention chouchou, tu es au-dessus de la vitesse, il faut lever le pied maintenant, voilà.
10 avertissements finaux sur 18 millions,
bien
niveau
sûr.
Avertissement, enfin, t'as plus de chances de te faire écraser par un bus quand tu traverses la rue, quoi. Donc,
bon,
j'exagère un peu, mais à peine, tu vois ce que je veux dire.
Oui, non, tout à fait.
Niveau surtout, éducation.
Surtout quand on lit que, alors je sais plus, c'était dans le papier du Monde qui était absolument passionnant, que une des personnes qui est arrivée en dernière instance, c'est-à-dire qui a été avertie deux fois, trois fois, etc., etc., c'était pour avoir téléchargé 15 fois la même chanson.
Ouais.
Y a des gens qu'on peut pas
ce
aider.
Ce qui en théorie n'est pas compté, il disait, il y a un type de comptage qui est si la personne télécharge de la même IP pendant la même semaine, c'est compté qu'une fois, en théorie, mais bon.
Oui, mais la même semaine, ça voudrait dire que, enfin, je sais pas.
15 semaines de suite, il a téléchargé Rihanna et David Guetta.
Voilà, ça n'a pas de sens. Mais, voilà, il y a des gens qui, malgré tous les efforts et malgré quelques efforts de pédagogie, on peut pas les aider. Là, c'est pas possible.
Malgré tout, quand même, les ayants droit se plaignent, parce que vous imaginez 18 millions constat d'infraction, c'est, il y a combien de lignes en France, de lignes Internet? C'est quoi? C'est 30 millions?
40 millions, je crois ça. Non, il n'y a pas 40 millions de lignes ADSL en France. Bah non, il n'y a pas 40 millions de foyers en France.
Excuse-moi. Bon, après,
on est
moi, je comptais juste les smartphones, donc.
Non, on tire les smartphones parce que je pense pas qu'il y ait de constat qui soit fait sur ces abonnements-là. Ne serait-ce que parce que, je sais pas, il y a des gens qui font du peer-to-peer sur des mobiles. faut du courage.
Oui, bon, d'accord. Donc, voilà. Une trentaine de millions de lignes, on va dire.
Il doit y avoir entre, j'ai même l'impression que c'est plus près de 20 millions le nombre de lignes ADSL. Mais je suis prêt à être corrigé. Oui, voilà, ça ferait un constat en moyenne par ligne. C'est à la fois beaucoup et peu. Mais il faut dire que ce sont des constats automatisés, que là-dessus, il faut arriver à filtrer tous ceux qui concernent soit des adresses IP qui finalement sont pas vraiment en France, soit, enfin bref, il y a beaucoup de, je pense qu'il y a beaucoup de déchets dans les constats automatisés qui sont faits.
Oui, surtout que quelque chose d'intéressant là-dedans, c'est que donc parmi les 18 millions de constats d'infraction, il y en a 1 million qui ont été sélectionnés au hasard par l'ADOPI pour faire des demandes d'identification, et il y en a 900 000 seulement qui ont été identifiés. Donc il y en a 100 000 qui n'ont pas été identifiés du tout. Donc
c'est parce que tu tombes sur l'adresse IP d'une imprimante ou enfin bon, des choses qui ce qui peut arriver aussi, il y a des adresses qui veulent rien dire.
Non, mais il y a pas de raison, il pourrait envoyer une lettre à l'imprimante, je veux dire, elle peut l'imprimer, tout ça.
Elle peut l'imprimer en effet.
Mon imprimante Madame, pirate.
C'est ça, Madame HP Laserjet, 4 places. Non, bah, c'est pas possible.
Je me suis quand même amusé à faire un petit truc. Je suis allé voir le coût d'une lettre recommandée avec accusé de réception en France. Alors en moins de 20 grammes, c'est à 4,38€.
Donc, fois 20 000, c'est pas lourd.
Fois 20 000, voilà, ça fait 87 600 euros. Bon, moi, je les prends, hein, franchement.
Alors, la question du jour. Tu préfères avoir 87 600 euros ou 20 000 lettres recommandées?
Moi, je prends le cash. Hein.
D'accord. Samy Biz dans la chatroom me demande, est-ce que tu peux refaire le It's a Trap de la Comic-Con? Attention, 3, 2, 1. It's a Trap! Voilà.
Pas mal.
C'est trop fort.
Et on parlait d'Adopi, bien sûr. Bon, Adopi, on referme le sujet, non?
Ça reviendra.
Ça reviendra, oui, certainement. Il y avait aussi un truc sur les députés qui veulent faire payer directement les gens qui sont condamnés aux ayants droit sans passer par la case procès.
Légalement, ça me paraît un tout petit peu optimiste.
Ouais. Voilà, disons
et puis là encore, j'ai l'impression, mais c'est une opinion toute personnelle, que c'est une transcription un peu curieuse de ce qu'était les peurs, les demandes des ayants droit au début. Les ayants droit, ils sont pas là pour aller prendre des chèques auprès de, enfin, c'est pas très intéressant pour eux. D'autant que je pense que le type que vous condamnez à des dommages et intérêts auprès d'un ayant droit pour du piratage habituel, hein, je parle pas de gens qui font de la contrefaçon ou qui en font commerce, bien évidemment, parce que là on tombe dans autre chose. Mais c'est quand même quelqu'un que vous avez perdu comme client derrière.
Ah bah ça leur fait pas peur, hein. C'est leur politique depuis un moment, mais par contre, on
sait que les contrevenants, les gens qui partagent, qui piratent, etc., sont dans l'ensemble aussi les premiers clients de
c'est sûr. Nous on le sait, mais est-ce que les ayants droit le savent? En tout cas, les gens qui gèrent les.
Peut-être. Je pense qu'il faut pas les sous-estimer.
Oui, c'est vrai. T'as raison de le souligner. On a tendance à voir les choses de manière un petit peu. Caricatural souvent et bon
tout est pas si noir ni blanc. Moi j'ai eu de quelques longues discussions là-dessus avec Pascal Nègre par exemple c'est des gens qui eux aussi chez les ayants droit aussi il y a eu une courbe d'apprentissage de ce qu'était l'internet, ce qu'on pouvait faire avec ou pas, ce qui marchait ou pas, ce qui était réellement dangereux ou etc. Parce que, enfin, voilà, il y a des choses qui ont été dites qui étaient assez exagérées. Et puis en plus, ce qui se passe quand même en parallèle de tout ça, c'est que arrivent en même temps des modèles économiques qui font. On a déjà eu cette discussion ensemble, Patrick. Tout à coup, le jour où tu découvres Spotify, le peer-to-peer n'a plus d'intérêt. C'est-à-dire que c'est terminé. Même d'ailleurs stocker des MP3 n'a plus aucun intérêt. Donc tout à coup on se met à donner de l'argent et avec le sourire plus qu'on n'en a jamais donné. Moi j'ai 10€ par mois qui partent dans Spotify, ça veut dire qu'au moins la moitié, voire les deux tiers, aussi, voire 70% de ça part aux ayants droit. C'est beaucoup plus que ce que je dépensais en CD jusque-là.
Entre parenthèses, il y a des députés, on disait, ils veulent donner de l'argent aux méchants ayants droit, enfin, aux méchants de société qui gèrent les ayants droit. Ils s'intéressent aussi à la manière dont l'argent est réparti dans les contrats, parce que certains sont en train de constater que parfois les contrats sont pas forcément extrêmement, comment dire, que ils prennent parfois avantage de la jeunesse ou des envies des artistes, et ils sont un petit peu en train de se demander pourquoi parfois les contrats font une part tellement élevée à certains et pas à d'autres.
Oui, on le sait, un jeune artiste qui commence, même s'il fait un gros carton, par exemple, avec son premier album, il a peu de chances de gagner beaucoup d'argent, sauf par exemple si sa tournée en rapporte énormément. Mais ça, c'est pas nouveau. Je me souviens du premier producteur légendaire de Nirvana, dont le nom m'échappe à cet instant précis, qui avait lâché une diatribe d'enfer sur Internet, mais c'était il y a des années, ça, et qui expliquait, mais vraiment avec dollars and cents, en expliquant au dollar près, en prenant des exemples, en disant tel groupe, bah voilà, ils ont un album, le premier s'est vendu d'enfer, ils ont gagné tant, bah oui, mais sur les temps, il y a tant qui sont repartis dans la poche de machin, machin, l'intermédiaire, le producteur, etc.
Et Courtney Love avait fait une
voilà, dans la même tirade, absolument, ouais. dans la même veine, même si, voilà, Courtney Love, elle est quand même du bon côté de la barrière,
oui, non, c'est sûr.
en termes de gains, et ça, c'est vrai que ça évolue pas énormément, mais tu remarques quand même que toutes ces choses qu'on se disait il y a 10 ans sur, avec Internet, tout à coup, il n'y a plus besoin de maisons de disques, parce que de toute façon, les gens vont avoir les moyens techniques d'enregistrer des albums tout seul, et puis deux, les moyens de les distribuer et de fédérer leurs fans et de gérer tout seul. Bah ça, c'est pas arrivé.
Disons qu'il y a des
Coldplay qui met un album en ligne, mais bordel, Coldplay quoi.
Oui, voilà. À la limite, eux, les groupes qui existent déjà, ils sont dans une situation un petit peu différente. Mais il y a des artistes qui se lancent par Internet, qui réussissent à en vivre. Évidemment, ils vivent pas comme Madonna ou Michael Jackson, mais ils réussissent
Michael
à en
Jackson,
vivre.
Michael Jackson, il vit plus, mais bon.
Non, mais vous voyez ce que je veux dire. mais il y a des gens qui réussissent à vivre par Internet. Et qui réussissent à en vivre. Alors, ils font pas des millions, c'est sûr, mais ça peut exister aussi. Mais le truc, c'est que c'est pas le même type de personne. Il y en a encore très peu aujourd'hui. Et enfin, bref, c'est une discussion qui pourrait durer des années. Parlons plutôt de quelque chose. Tiens, au lieu de taper tout le temps sur les ayants droit. Enfin, précisons, c'est pas sur les ayants droit qu'on tape. C'est sur les gens qui gèrent les droits. Les
sociétés de gestion de droits, voilà. Oui, beaucoup. Mais c'est des gens qui ont beaucoup d'argent et pas beaucoup d'amis, hein, dans l'ensemble. Hein,
c'est vrai. mais alors, justement, c'est vrai que parfois, la musique, le monde de la musique met un petit peu de temps à se bouger ou à changer les choses. Moi, j'ai trouvé que sur ces 10 dernières années, le monde de la vidéo était un petit peu plus actif. Et là, on a une nouvelle preuve, j'ai l'impression, de cet état de fait, avec Ultraviolet, que je disais tout à l'heure. Alors, Ultraviolet, pour moi, c'est le DRM intelligent. Alors, attention,
je crois que tu viens de perdre 800 amis.
C'est un peu ça. Comment le DRM? Non,
le
mais alors.
Le DRM est intelligent, mais ce n'est pas possible.
Le DRM, c'est pas forcément. C'est généralement utilisé de manière pas très intelligente pour l'utilisateur. En l'occurrence, Ultraviolet, c'est un système qui a été initié il y a, peut-être on en entend parler depuis 2 ou 3 ans, par les ayants droit, enfin par les grands studios hollywoodiens et les sociétés, les studios de production de télé, qui veulent en fait avoir un système de DRM logique, universel et qui fonctionne bien. Et l'idée, c'est que ça serait un système qui vous permet d'avoir accès à un titre que vous avez acheté sur tous les services qui existent. Et également, qui serait compatible avec les supports physiques. Je donne un exemple. Vous achetez un Blu-ray qui est compatible Ultraviolet. Eh ben, vous achetez ce Blu-ray, il y a peut-être un DVD avec dessus, ça vous donne droit à ce film sur les services compatibles Ultraviolet. Vous allez ensuite sur, je dis n'importe quoi, Hulu, Netflix, ou disons iTunes, même s'ils font pas encore partie du consortium, et ben, sans repayer, vous pouvez télécharger ou visionner ce film. C'est-à-dire que vous avez payé votre droit pour ce film, et ben, vous y avez accès partout. Franchement, c'est, alors ça, c'est la théorie, hein. On sait pas si ça va fonctionner comme ça, mais c'est comme ça qu'il a été conçu. C'est malin comme utilisation,
ça,
non?
Ça résout un des énormes défauts des DRM, qui était l'absence totale d'interopérabilité. C'est-à-dire qu'on a eu pendant longtemps deux grandes familles de DRM, qui étaient Microsoft d'un côté et Apple de l'autre, mais qui ne marchaient que sur des plateformes Microsoft d'un côté et que sur des plateformes Apple de l'autre. C'est-à-dire que tu achetais de la musique sur iTunes et tu ne pouvais la jouer que sur un iPod. Et de l'autre côté, tu pouvais acheter ou louer ou regarder de la vidéo DRMisée sur Windows Media, mais tu pouvais pas la regarder sur un Mac. Et donc il y a eu beaucoup de demandes là-dessus, de dire bon, les DRM pourquoi pas, mais il faut que ça puisse marcher sur plusieurs plateformes. Il faut pas que ce soit, c'est-à-dire que acheter de la musique et pas pouvoir l'écouter sur son autoradio, c'est un truc qui intellectuellement est insupportable. Non mais c'est vrai. Et forcément, moi je faisais partie de ceux qui disaient non mais attendez, le DRM, il y a des gens qui voulaient interdire les DRM.
Ouais.
Moi j'ai toujours plutôt fait partie de ceux qui disaient interdire pour interdire, c'est un peu bébête, parce que le DRM ça permet des choses. Le DRM ça permet par exemple de faire de la location plutôt que de la vente, ça permet de... Enfin voilà, ça.
D'ailleurs Spotify que tout le monde adore, les chansons sont avec DRM. Donc tu les télécharges en offline.
C'est un service protégé, c'est-à-dire qu'on on te dit pas, et d'ailleurs c'est fait assez intelligemment, parce qu'on te dit pas télécharge des fichiers. Mmh. On te dit ça va synchroniser tes playlists. Mais tout ça reste dans le player Spotify, dans l'appli Spotify, mais justement, ça marche sur toutes les plateformes. Pourquoi est-ce qu'on aime Spotify? C'est que ça marche sur le MacBook qui est devant moi, sur le PC que j'ai à la maison, sur le téléphone Android que j'ai dans la poche, sur mon PC du bureau, quelle que soit la machine sur laquelle je suis. Donc, on a réussi à aplanir les difficultés c'était difficile de protéger du contenu sur toutes les plateformes en même temps. Maintenant, ça y est, on a les outils, donc on voit Spotify sur la musique et Ultraviolet sur tout le reste, parce que là encore, te dire surtout pour te vendre du contenu aujourd'hui sur une machine, alors que tu te dis mais attends, mais si ça se trouve dans un an je vais avoir changé de machine, est-ce que
tout
sera nul et non avenu et se délitera dans l'éther parce que je ne pourrai plus le regarder, c'est insupportable. Et pourtant il faut continuer à pouvoir vendre du contenu à l'heure où il n'y a plus de support physique. Donc ça peut marcher pour le Blu-ray, mais ça marchera aussi pour des trucs dématérialisés, même si je pense que là aussi le modèle du futur est plus sur de l'abonnement, quand on voit le succès de Netflix aux États-Unis par exemple.
Oui, mais bon, disons que là on c'est encore une autre question.
Oui,
mais...
oui, là on est plutôt sur des histoires de modèle économique plutôt que de soucis technologiques à régler. Mais voilà, donc moi je pense que Ultraviolet est plutôt un pas dans la bonne direction.
Monsieur Yo dans la chatroom dit bah oui vous êtes gentil mais moi je fais quoi de mes 150 CD et de mes 200 enfin de mes 200 CD et mes 150 DVD. Oui, c'est sûr, effectivement c'est un problème. Enfin, d'une part, les gens vont pas venir te les prendre de tes mains crispées non plus, hein, tu les gardes tes bestioles. Mais
c'est ça. Bonjour
pareil,
monsieur.
Quand... Bonjour monsieur, c'est pour prendre vos DVD pour le Ultraviolet.
Nous allons ultravioler votre DVD. Gendarmerie nationale.
Mais bon, enfin, comme tu vois, à l'époque où t'avais acheté toutes tes cassettes, à un moment t'as acheté des CD. Je veux dire, t'es pas obligé de racheter les mêmes films, mais les prochains.
T'as même jeté tes cassettes, tes DVD à la rigueur. Pour l'instant, tu les as pas encore jetés.
Exactement.
Tu les regardes encore sur le rayonnage en disant. Qu'est-ce que je vais en faire?
Mais non, mais tu vois, pour les prochains films, par exemple, est-ce que tu préfères acheter un Blu-ray ou un Blu-ray Ultraviolet qui va te permettre ultraviolet, hein, on va être français, d'avoir accès à ce film sur des services dématérialisés? Bah, bien sûr, le calcul est vite fait. Lionel, tu t'es d'accord avec nous ou est-ce qu'on...
Oui, je suis d'accord avec vous. Moi, la réflexion que j'ai, c'est qu'on... Quand je me pose un peu, je me dis mais est-ce que vous vous rendez compte dans quelle préhistoire on est en train d'être là? Imaginez-vous une seconde une personne qui n'est pas technophile et qui tente de comprendre ce qu'on est en train de raconter. C'est juste incompréhensible. On est vraiment au niveau zéro de l'innovation dans ce domaine-là. Quoi. Il y a un chemin à parcourir qui me semble tellement important. Toutes ces histoires-là, en plus, ça devrait être homogène, qu'on parle de l'audio, qu'on parle de la vidéo, qu'on parle de l'écrit, enfin de l'éditorial écrit en règle générale, on devrait aller tous dans le même sens. Après, il y a les législations des pays qui diffèrent et qui mettent des barrières, mais c'est quand même d'une complexité infinie et c'est un gros bordel quoi. Enfin.
Et donc Ultraviolet pourrait simplifier tout ça quoi. C'est ce que tu.
Oui, mais encore une fois, on en parle. Bon là, on n'a pas vu vraiment comment ça fonctionnait, mais ok pour les vidéos. soit. Maintenant,
mais quid de la musique et des livres?
Quid de la musique, ça va être quoi? Ultraviolet pour la musique, ce serait bien. Et quid pour
pas
les livres?
Parce que je crois que sur la musique, on a un peu franchi le Rubicon. Oui, je trouve vendre de la musique avec du DRM aujourd'hui, c'est fini.
Bah oui, on a soit Spotify où tu as des trucs illimités,
c'est de l'abonnement.
Soit iTunes, c'est du MP3 dont tu peux faire ce que tu veux. Donc
maintenant oui.
Mais non, enfin, bon, moi, Ultraviolet, franchement, je trouve que c'est le DRM intelligent et c'est dans ce sens-là. Si, c'est bien implémenté, hein, mais.
Il faut le voir, mais c'est le DRM qui apporte de la valeur. C'est-à-dire, tout à coup, ça permet, on va te le proposer, on va d'ailleurs pas te le proposer. Ce qu'on va te proposer, c'est quelque chose que tu ne pouvais pas faire avant. C'est-à-dire, acheter un Blu-ray et puis pouvoir voir la version numérique du fichier sur une tablette, un machin, sans avoir besoin de toi te poser la question de comment je vais faire pour le transcoder, le copier, le transformer. Donc, tout à coup, on ajoute de la valeur à ce qui existait jusque-là. Si la contrepartie c'est de dire ah oui mais attendez il y a quand même une protection qui fait que vous n'allez pas pouvoir le copier sur une clé USB pour le donner à votre petit neveu, bon bah soit. Alors après il y a des aspects de copie privée mais qui continueront je pense à s'appliquer sur les supports physiques par exemple.
Bon, on peut imaginer des systèmes du type vous avez un fichier pour le logiciel, enfin un fichier de votre film et il peut être lu par un appareil en même temps ou bref ça devient compliqué.
Oui tout à fait, ou par exemple plutôt que de faire de la location en disant téléchargez le fichier vous pouvez le regarder pendant 2 semaines quel que soit l'appareil par exemple pour moins cher que ce qu'on vous aurait fait payer pour vous le vendre.
Bon, on arrive à la fin des sujets principaux et on va passer à nos news et rumeurs. Je cherche toujours une nouvelle formule pour cette partie news et rumeurs qui a toujours été un petit peu bâtarde. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça comme ça. Un petit peu bâtarde. Où, en fait, je mets plein d'infos qu'on n'a pas eu le temps de traiter longuement. Mais qui
sont vachement importantes.
Mais
quand
qui
même.
Sont importantes et intéressantes. Et du coup, on finit systématiquement par en parler longuement. Mais ce que j'aimerais, en fait.
Donc, terrible. En fait, ton rubriquage, il est tout pourri.
Tout pourri. J'aimerais un nom pour une rubrique où. Ce que j'aimerais faire, en fait, c'est la rubrique où je lis et j'explique rapidement les informations dont je veux parler. Je laisse 2 secondes de blanc. Si l'un de vous a un truc à dire, il commence à parler. Là, on continue à en parler. Si vous n'avez pas de truc à dire, j'enchaîne sur le suivant.
Je pense qu'il faut que tu le fasses avec une musique de fond, tu vois, comme les brefs des news, genre tan.
Ouais, ça serait pas mal.
Et puis qu'on soit tous équipés, tous les deux, par exemple, équipés d'un buzzer. Attendez, là j'ai quelque chose à dire. Stop the clock.
Crixou dit les app infos, c'est pas mal par rapport aux apps d'upload. Nico 4271 dit next. C'est pas mal.
Next.
Quick and dirty. Bon, sur les commentaires de l'émission, tiens.
Très bien.
Jérôme,
nous dit le bruit du fou.
Si vous avez des noms d'idées intéressants, venez sur le blog nowatch.net et mettez le nom de l'idée en commentaire sur l'article de l'émission. On essaiera de trouver un truc. Pour aujourd'hui, ça va être le Zap Info. Donc le Zap Info de cette émission commence tout de suite avec premier Zap Info. Une tablette Amazon serait attendue pour cet automne. Amazon aurait commandé 1,2 million de tablettes. On l'attendait, enfin on s'en doutait depuis un moment. Là, ça semble se confirmer pour cet automne.
Bah,
bip.
Ouais. Mais je laisse Lionel faire d'abord.
Oui. Non, juste moi, ce qui me plaisait chez Amazon, c'était sa différenciation. Avec le Kindle, il y avait vraiment un outil particulier qui répondait à un besoin précis et particulier et qui en plus était exploité d'une façon intelligente. Donc, je suis un peu sceptique sur la tablette, mais bon, avec la pléthore de l'offre qui est aujourd'hui, je sais pas, à voir.
Moi, je suis pas sceptique du tout parce qu'ils vendent des Kindle par wagons entiers. Ils en vendent des millions et des millions et des millions et des millions et ils publient pas vraiment les chiffres ou très rarement. Ouais. Donc en fait, s'il y a une tablette Android d'Amazon, c'est juste un Kindle en couleur sur lequel il y a des apps, et ben ça va se vendre. D'autant que ils font de très très gros efforts sur les prix. Et puis il faut pas oublier que bordel, c'est Amazon quoi. Donc s'ils le mettent sur la une d'Amazon, ça va se vendre de manière organique par million.
On est d'accord, Amazon c'est vraiment la société à laquelle on pense pas forcément mais qui est 3 éléphants dans la pièce quoi.
Yep. Next.
Zap info suivante. Des indices laisseraient penser que les jeux Xbox 360 seraient jouables sur Windows 8. directement.
Logique, ils sont développés de manière quasiment indifférenciée aujourd'hui avec Xena, enfin l'environnement de développement est un peu le même. Donc pourquoi pas, mais ce serait très 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 fort de la part de Microsoft.
Ce serait très fort et en même temps quand on regarde Windows 8, vous avez vu quelques images de l'interface, c'est très ça ressemble vraiment très à s'y méprendre à Windows Phone. Et puis Microsoft depuis très très longtemps, des années.
Et l'interface de la Xbox a été métroïsée aussi.
Hein. Oui, oui. Ouais. Et Microsoft nous parle de l'écran, des trois écrans, de l'univers unifié, etc., etc. Donc c'est logique. Why not, à voir comment ça va se mettre en œuvre. Si ça se met en œuvre un jour, ce sera très intéressant. Ouais.
Oui, on précise.
Vas-y, vas-y.
On précise que c'est une rumeur. Hein. C'est vraiment un petit truc qui sort de quelque part et les gens ont fait des spéculations. C'est pas du tout confirmé.
On va finir vite parce que dans la chatroom, ils sont en train on est en train de partir sur non, Linux supérieur à PC, non Mac. Donc ça y est, c'est la guerre. It's war. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que pendant des années, Microsoft a essayé de décliner Windows sur tous les écrans. Et puis ça y est, un jour, ils ont vu la Vierge et ils sont aperçus que c'était pas forcément le truc le plus pertinent à faire, surtout sur les mobiles. Et du coup, ils vont s'unifier autour d'une interface qui est pertinente dans tous les systèmes d'interface, de machin, la souris, le touch, les grands écrans, les petits. C'est vachement intelligent.
Burdcom dans la chatroom dit que l'Amstrad est meilleur que l'Amiga.
J'ai eu les deux. Je vois, vive Windows 3.1. are you from the past?
Zap info suivante. HTC donne déjà $7 par appareil, par téléphone Android vendu à Microsoft. Et maintenant, Microsoft demande $15 par appareil Android vendu à Samsung. Bon, on se doute qu'ils demandent 15 pour avoir moins, mais Android est-il en train de faire la fortune de Microsoft? En tout cas, il leur donne pas mal de sous.
Ouais, et d'Apple. Alors,
Apple, c'est la news suivante. Bien sûr, c'est pour des histoires de brevets que chacun détient et que machin veut faire jouer pour gagner des trucs. Enfin, les histoires de brevets dont on vous parle tout le temps qui sont insupportables. Autre histoire de brevets, la International Trade Commission a jugé que HTC, et donc peut-être Android en général, était en violation de deux brevets détenus par Apple, ce qui fait que Apple pourrait avoir le droit soit de demander de l'argent au constructeur, enfin, dans un premier temps à HTC, dans un deuxième temps à d'autres constructeurs Android, soit carrément de faire interdire la vente de ces téléphones. Bien sûr, c'est la première étape d'un processus extrêmement long. Il est très peu probable qu'on arrive à une conclusion de ce type-là, mais c'est une première étape suffisamment sérieuse pour qu'on en parle. HTC va bien sûr faire appel de la décision.
Dans l'instant. Mais c'est, les brevets, c'est vraiment je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Ah oui, mais regarde, moi j'ai 14 brevets sur lesquels tu empiètes. Oui, mais moi j'en ai 14 et demi. C'est un peu infantile, mais en même temps c'est beaucoup de business et surtout ça fait travailler un nombre d'avocats absolument incommensurable. C'est-à-dire que dans ces histoires-là, les grands gagnants, c'est toujours les avocats.
Hein. C'est sûr.
Tu gagnes, tu perds, ils ont gagné quand même. Mais en même temps, faut bien que tout le monde mange. Mais oui, c'est assez insupportable, surtout quand on voit la teneur de certains brevets ou avec leur on se dit, mais attendez, mais ils l'ont inventé ça. Enfin,
en l'occurrence, moi,
j'oublie jamais que la première fois que j'ai vu du multitouch, c'était chez Microsoft, quoi.
C'est sûr. Mmh. Enfin, la première fois, c'était la démonstration. Comment il s'appelle, Monsieur Yang? Je sais plus.
Ah oui, mais il y en avait probablement eu avant, mais ouais. ça voulait dire que voilà, c'était des idées qui étaient bonnes à prendre au moment. Enfin voilà. Et puis c'est des choses qui, si on les grave dans le marbre, sont des freins à l'innovation. Et ça c'est insupportable.
En l'occurrence, l'un de ces brevets, enfin il y en a deux, je vais en détailler un, c'est un système qui permet en fonction d'analyser un texte et de le contextualiser pour faire des actions dessus. En gros, ce que ça veut dire, c'est quand il reconnaît un numéro de téléphone dans un texte, eh ben, ça vous permet de cliquer dessus pour passer un coup de fil. Enfin, c'est quand même pas
la belle affaire.
Oui, voilà, c'est un petit peu un principe de base, enfin un truc auquel n'importe qui aurait pensé quand on a ce type de possibilité. Alors là, c'est Apple qui détient ce brevet-là, c'est ridicule et éhonté, mais les autres brevets qui provoquent ce type de procès sont tout aussi ridicules.
Oui, parce que du coup, ils déposent tous des brevets dans tous les sens, tous ceux qui peuvent déposer, ils le déposent, ne serait-ce que de manière défensive, pour dire au moins celui-là, on pourra pas nous l'opposer, on pourra pas dire c'est pas vous qui l'avez inventé, etc. Mais là, il y a une énorme responsabilité des bureaux des brevets qui les valident, parce que c'est pas tout de déposer un brevet, il faut quand même qu'il soit validé, et que les gens vous disent, ok, c'est à vous que ça appartient. Il y a des fois, on se gratte la tête avec le recul, surtout sur les brevets qui concernent des business models, par exemple, quand on vous dit on va breveter l'achat en un clic.
Fameux achat OneClick voilà. Amazon qui
really est... voilà, maintenant je sais pas si Amazon attaque les sites bon
qui... Ah mais ils le font, enfin Apple paye à Amazon pour le l'achat en un clic, ils payent.
C'est énorme. Ouais. C'est énorme. Mais c'est bien, ça fait tourner de l'argent parce qu'en fait on s'aperçoit que ces gens après de manière croisée se payent des brevets les uns aux autres. Donc c'est peut-être toujours c'est de la cavalerie en fait, c'est toujours le même argent qui tourne des uns aux autres en disant je te donne 100 millions, tu donnes 100 millions à machin, Kodak les donne à Palm, Palm les donne à HP, HP les donne à Apple, Apple les donne à Xerox. Etc. Enfin, c'est voilà, bon, c'est insupportable. Et mais encore une fois, les seuls qui gagnent, c'est les avocats.
Laurent Lutin dans la chatroom nous dit il faut un brevet Patrick Béja. Je suis pas certain de la teneur du brevet.
Il n'est pas déposable car il n'est pas copiable.
Lionel.
Ouais, non, ce qui est notable dans cette histoire, c'est Microsoft, Apple et d'autres attaquent les constructeurs de téléphones, mais ils n'attaquent pas le système Android en tant que tel. C'est pas Google qui est visé dans cette histoire, mais c'est les constructeurs de téléphones qui utilisent Android, est censé exploiter des technologies qui ne lui appartiennent pas.
C'est un petit peu le problème des systèmes open source où il commence à y avoir une certaine méfiance en se disant bah oui avec open source on n'est jamais sûr de quel brevet on utilise et de qui va nous tomber sur la gueule ensuite. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu un souci quoi. Et certains se disent bah je préfère utiliser un système que je paye, au moins je sais où je vais et ce que je fais. Mais bon, enfin là ne paniquons pas, Android n'est pas non plus en danger immédiat. RIM nous a fait il y a une rumeur un petit peu what the fuck. C'est la rumeur de RIM TV, qui est une sorte de set-top box, de petit appareil qu'on branche sur la télé, un petit peu comme l'Apple TV, qui serait un projet connu sous le nom de RIM Cyclone. C'est bien sûr une rumeur, mais de toutes les rumeurs que je m'attendais à voir de chez RIM, enfin vraiment une télé qui est un boîtier qui se branche sur la télé, qui est un truc hyper niche, que ni Apple, ni Roku, ni comment il s'appelle, celui avec la boîte bizarre.
Voodoo,
enfin bref, il y en a plein. Personne n'a réussi vraiment à en faire quelque chose de ni Android bien sûr. La Boxy, merci les gars. Boxy Box. Personne n'a réussi à en faire quelque chose de un marché hyper large. Enfin, est-ce que RIM voit sa salvation,
salvation? Oui, si ça marche, salvation. C'est français, monsieur.
Là-dedans, enfin, c'est un peu what the fuck pour moi.
Oui, c'est un peu curieux. Il faut attendre de le voir.
iTunes, en plus.
Surtout que
ils veulent se connecter à iTunes également. Ça me paraît hallucinant.
Ah, j'ai pas vu qu'ils voulaient se connecter à iTunes.
Ils veulent en fait aspirer du contenu d'iTunes, un peu comme l'Apple TV.
D'accord.
Pour pouvoir diffuser ce contenu-là.
Alors, je pense qu'ils ont tout compris. C'est pile ce qu'il fallait faire. Ça va se passer sans problème. C'est exactement. Ils vont en vendre au moins des dizaines. Et Apple va pas leur tomber sur la gueule, donc parfait.
Ah, c'est énorme,
tout compris. iPad HD. Alors, je vous l'aurez remarqué, malgré toutes les accusations de fanboyisme, je traite généralement très très peu des rumeurs sur les iPhones et les iPads et les machins comme ça, parce que rien n'est jamais. J'en parle un petit peu. Il y a des gens, je suis sûr, dans la chatroom qui vont me dire ah mais non, t'en parles tout le temps. Si vous saviez ce que je laisse de côté, il y a les rumeurs Apple et les procès pour les histoires de brevets. J'en laisse de côté des tonnes parce que c'est soit hyper chiant et ça arrive tout le temps et ça mène jamais à rien, soit on n'a aucune preuve sur rien et c'est juste des gens qui se réveillent un jour et qui disent ah bah il va peut-être se passer ça. Mais en l'occurrence, un truc un petit peu plus crédible, c'est la rumeur de l'iPad HD qui aurait une meilleure résolution, qui sortirait en septembre, qui serait un iPad 2 un petit peu boosté et qui serait destiné au marché des professionnels avec des logiciels un petit peu plus élaborés qui pourraient tourner sur l'iPad HD et pas sur l'iPad normal.
Ça tient la route à la fois technologiquement et puis en termes de marché, parce que ça permettrait à Apple de refaire un peu du haut de gamme sur l'iPad. Je vous rassure, hein, ils gagnent leur vie avec l'iPad. Mais ils la gagnent pas aussi bien qu'ils le font sur l'iPhone par exemple, etc. Donc les marges sont un petit peu réduites parce que dès le début ils ont fait des efforts sur le prix pour gagner le marché et puis aujourd'hui la concurrence arrive et donc on va dire que le prix standard de début c'est 500€ ou $500. Donc oui, ça leur permettrait de refaire un modèle haut de gamme à côté du modèle d'entrée de gamme, du modèle existant, ce qui est aussi apparemment ce qu'ils s'apprêtent à faire sur le téléphone où il y aura un iPhone 5, new and improved, et puis un iPhone 4S, juste new.
et un iPhone 3GS qui serait en vente sans contrat pour les en prepaid en fait. Enfin,
tu veux vraiment acheter un 3GS là aujourd'hui?
Moi non, mais on parlait des marchés un petit peu moins
de l'Inde et de l'Indonésie et tout ça. Ouais, mais ça c'est encore là, c'est encore trop cher, monsieur. Et puis il vaut mieux faire un nouveau produit parce
que
c'est
non, mais en Grèce alors.
C'est oh, c'est moche ce que tu fais. parce que c'est quand même pas fantasmatique de dire regardez, c'est merveilleux, ça a deux ans.
Bon, écoutez, on va conclure avec une dernière histoire un petit peu marrante quand même, que j'ai trouvée comme beaucoup d'autres sur le site de notre ami Corben, dont j'avais déjà entendu parler d'ailleurs, qu'il a très habilement nommé lol.be, le coup de pute de la semaine. Désolé pour ceux qui ont les oreilles un peu chastes, mais c'est aptement nommé. Vous vous souvenez peut-être des éditeurs belges qui avaient en 2006 fait une attaque, fait un procès à Google pour leur demander de ne plus être référencés, enfin de ne plus être intégrés dans leur service Google News. Vous savez qu'ils intègrent des informations de différents quotidiens hebdomadaires, de différents organes de presse sur Google News. Alors, la logique de ces gens-là, c'était quand on peut lire les informations sur Google News, eh ben on vient plus chez nous. Donc, on voudrait qu'ils ne soient plus sur Google News pour que les gens viennent chez nous directement et qu'ils ne lisent pas ça chez Google. Ils ont gain de cause au tribunal. Google se retrouve obligé de supprimer ses publications de son service Google News. Sauf que il y a quelques jours, ces mêmes journaux se sont rendus compte que Google ne les avait pas seulement retirés de Google News, mais de Google tout court. C'est-à-dire que le moteur de recherche, visiblement, n'indexerait plus leur page du tout, leur site du tout. Donc quand on tape quelque chose sur Google, excusez-moi, je me marre, mais c'est quand même...
C'est vrai que c'est horrible, en fait.
Et quand on tape quelque chose sur Google, on tombe plus jamais sur les journaux en question.
Ouais, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que je pense d'accord. que j'ai pas toute l'histoire du début.
Mais éclaire notre lanterne un petit peu.
Non, mais clairement, l'intention de CopyPress, qui est apparemment le consortium qui rassemble tous ces journaux, ouais. C'était pas tellement de dire, nous, on n'a plus envie d'être sur Google News, parce que pour ne plus être sur Google News, c'est très simple. Vous allez dans le fichier robot.txt de votre serveur web, et vous, en gros, vous mettez Google News égale no, quoi, ou égale zéro. Enfin, voilà. Ouais. Vous pouvez demander de manière automatisée à Google de ne pas vous présenter dans Google News. Il y a même maintenant, après que d'autres éditeurs se soient plaints des problèmes de visibilité, etc., Google leur a donné des outils en disant on peut vous afficher seulement certaines pages et pas d'autres, ou etc., etc. Enfin, on va vous donner des outils un peu fins pour gérer votre présence sur Google News. Et apparemment, l'intention de CopyPress, c'était pas juste de dire on veut pas être sur Google News, c'était plutôt de dire on veut bien rester sur Google News, mais il faudrait nous donner de l'argent.
Oui, bon,
Google a dit, attendez, pour nous, c'est un service qu'on rend. D'ailleurs, il n'y a toujours pas de pub sur Google News. Ce qui s'est passé depuis, et c'est ce qu'explique Google maintenant, c'est de dire, oui, mais maintenant, Google News a été intégré dans Google. Quand tu tapes un truc dans Google, s'il y a des résultats dans News, ils sont affichés dès la première page. Tu n'as pas besoin d'aller dans l'onglet Google News pour les voir. Donc, on dit, bah, du coup, on vous a retiré intégralement de l'index.
C'est un peu une pirouette, quand même.
Bah, c'est un peu, tu veux jouer au con?
Oui, c'est ça.
Ben voilà.
C'est exactement ça.
Et du coup, maintenant, non, mais... ils sont pas super contents. Ils disent, attendez.
Et maintenant, c'est de la censure. C'est extraordinaire.
Bon.
Censure infâme. Bah oui, mais vous ne vouliez plus y être. Monsieur, ouais. Maintenant, vous n'y êtes plus. Alors, bon. Voilà. Donc, moi, je suis allé lire, par contre, ce que disaient les gens de la Libre Belgique, etc., etc. Ouais, il y a quand même, enfin, c'est un peu le championnat du monde de la mauvaise foi, quand même. c'est-à-dire que, surtout avec ce qui s'est passé depuis 2006. C'est-à-dire que, de fait, Google a fait des pas en avant en disant on veut même bien mettre en avant des papiers de vos portails payants par exemple de manière gratuite en menant les gens vers un paywall qui leur permettra de payer pour accéder aux trucs, etc. Donc voilà, on va dire ils sont devenus assez accommodants parce qu'évidemment les modèles économiques de la presse en ligne ont un peu évolué. Mais apparemment à la Libre Belgique on n'avait pas beaucoup évolué et voilà, ils ont voulu se faire payer. Il était évident depuis le début que Google allait pas mettre le doigt dans cet engrenage-là en disant on reproduit que la première ligne et le titre de vos articles en échange on vous donne de l'argent parce que s'ils mettent le doigt dans cet engrenage-là il n'y a plus de Google.
C'est sûr.
Parce que sinon Patrick Béja va aller taper à la porte en disant Moi aussi, je veux payer.
D'ailleurs, j'ai commencé à prendre les contacts. Hein. Ils affichent mon nom sur le moteur de recherche Google et parfois certains des articles de mon blog en bien 2 à 3%. Je voudrais bien 2 à 3% de leur bénéfice, ça me paraît logique.
Et vous avez vu, on nous hurle dans la chatroom qu'en fait, c'est ce Android qui nous a envoyé le lien le premier, je crois, que Google va réindexer le soir.be et qu'il y a eu un accord de trouver entre copie pressée.
La nouvelle date de 20h24, donc c'est exact, effectivement tout frais. Voilà. Merci. Comment, jeune homme?
J'étais encore à la plage, moi. C'est...
Android. Merci, voilà. Android.
Oui, il était vision et il était évident que ça pouvait paraître.
C'était un petit peu l'histoire, comme le disait Corben, l'histoire lol du jour. Mais écoutez, on arrive à la fin de notre émission. Avant de conclure, je vais tout de même vous passer la statosphère. Guillaume est de retour avec ses informations toujours aussi passionnantes et ses chiffres fascinants. Aujourd'hui, il nous parle d'un truc que j'ai complètement oublié, mais que je vais vous jouer tout de suite. Je l'ai reçu tout à l'heure. Et vous, messieurs, vous ne l'entendrez pas, mais nos auditeurs, eux, vont l'entendre, et c'est tout de suite.
Salut à tous, Cisco vient de publier une nouvelle infographie consacrée à l'Internet des objets, c'est-à-dire l'ensemble des éléments vivants ou matériels connectés au web dans le monde entier. On y apprend par exemple que depuis 2008, le nombre d'objets connectés à Internet dépasse le nombre d'individus connectés et que ces objets seront 50 milliards d'ici à 2020. Ces objets ne sont pas seulement des tablettes ou des téléphones portables. Par exemple, une start-up hollandaise a entrepris de relier son bétail au web. Lorsqu'une vache est malade ou en gestation, un message est envoyé au fermier. Ainsi, chaque vache transmet 200 mégaoctets de données par an. Tous ces objets apprennent à interagir entre eux. Votre réveil, votre voiture et votre téléphone savent communiquer pour vous faire gagner du temps et de l'argent. Cisco envisage d'utiliser plusieurs milliards de capteurs sur Terre, dans les mers, dans l'espace, afin de détecter et de prédire les variations climatiques. Enfin, le protocole IPv6 devrait rapidement remplacer très avantageusement l'IPv4. Le nombre d'adresses IP disponibles équivaudra environ à 100 fois le nombre d'atomes constituant la surface de la Terre. Retrouvez toutes les statistiques du web sur statosphere.fr et le compte Statosphere sur Twitter. À bientôt.
Merci Guillaume et merci à la Statosphere. Donc il nous parlait effectivement des choses connectées sur Internet, entre autres. Et il nous disait qu'il y a plus de choses connectées sur Internet que de gens. Et en fait, oui, c'est sûr. Ouais. Quand on a des téléphones et des... Il y a des comment ça s'appelle ? Ces trucs pour se peser. Des pèse-personnes.
Oui, j'en ai un à la maison, sérieux.
Pareil. Moi, j'ai une balance Withings à qui je dois tout.
Tu tweets ton poids?
Non, c'est un peu l'arme atomique. C'est-à-dire, j'ai décidé que je me mettrais parce que tu peux paramétrer le système. En fait, on explique en deux mots, hein, tu te pèses, la balance, elle est wifi et elle envoie ton poids sur un service en ligne privé, qui met à jour ça sur ton application. Moi, j'ai une app, je l'avais sur iPhone, je l'ai là sur Android, qui me permet de voir en temps réel mon poids, la courbe de poids, le machin, nanan, l'indice de masse corporelle, la masse grasse, maigre, etc. Jusque là, ce sont des informations que je ne partage qu'avec les gens à qui je les montre sur l'écran de mon smartphone.
Mais c'est parce qu'il n'y a pas encore l'API sur Google Plus que tu puisses en parler en direct.
Paramétrer pour que ça publie en direct, soit systématiquement, soit une fois par semaine, soit quoi, sur ton Twitter, sur ton Facebook, etc., etc. Et ça, je me le garde comme arme nucléaire pour le jour où mon régime ne fonctionnera plus et où j'aurai besoin d'un surplus de motivation parce que, waouh, si tu te dis, ah non, mais attends, là, non, ce cheesecake, là, c'est ça sûr. Va pas être possible parce que samedi, mon poids sera sur Twitter ou sur Google Plus où les gens vont faire plus un sur ton poids, c'est insupportable. Intellectuellement, ça ne peut pas marcher. Ça, c'est WeThings, hein. C'est français, c'est génial et en plus, c'est formidable.
T'en as aussi, Lionel?
Oui, absolument. Ouais.
Je suis le seul couillon à pas avoir de pèse personne qui tweete mon poids, en fait.
Oui, mais c'est parce que tu n'as aucun problème de poids, salaud. Je suis forcé de le dire, j'ai perdu 17 kilos grâce à WeThings.
Oh, 17?
Ouais, et je suis pas.
C'est énorme.
Je suis pas le premier. Il y a le patron d'une start-up, c'est Evernote, qui s'appelle Phil Libin, qui est en Californie.
Evernote, bien sûr, on connaît bien.
Bien sûr. Lui, il a perdu du poids, pas en faisant un régime particulier, mais justement en s'informant sur son poids. Tous les gens qui ont pris du poids te le diront, ils ont pris du poids dans des périodes où ils ne se pesaient pas.
S'appelle la
balance WeThings, W-I-T-H-I-N-G-S. Et contrairement à ce que pourrait laisser penser le nom, c'est français. D'accord. Et Et ils font aussi un tensiomètre pour les gens qui ont des problèmes de tension. Je suis content de pas être dans ce groupe-là.
Elle coûte combien cette
C'est 150 euros, je crois.
C'est un peu quand même. Je sais pas si c'est pas 120. Enfin, c'est le prix d'une balance, on va dire, assez haut de gamme.
D'accord.
Mais il faut l'essayer. C'est absolument génialissime. C'est tout à fait remarquable.
Et tout le monde peut l'utiliser. Tu peux switcher l'utilisateur. C'est vraiment bien. Hein.
Il switch seul, en fait. Il reconnaît à peu près tes paramètres d'avant et se dit, bon, bah, dans la famille, ça doit être lui. Mais alors, c'est rigolo.
Faut pas peser le même poids que sa femme, quoi.
Oui, j'ai un confrère, dont je tairai le nom, qui avait essayé la balance chez lui, etc. Et puis, qui, lui, avait décidé dès le début de publier en temps réel son poids sur Twitter. Et le problème, c'est à toutes les mesures de poids que faisait la balance. Et c'est comme ça qu'il s'est aperçu que sa femme de ménage utilisait sa balance une fois de temps en temps. Et sa femme de ménage ne savait pas que son poids était publié en temps réel sur Twitter. Donc non, c'est absolument remarquable. Il faut lire à ce propos un bouquin qui s'appelle The 4-Hour Body, B-O-D-Y comme un corps, qui a été écrit par un patron de start-up à San Francisco qui s'appelle Tim Ferriss, qui avait déjà fait The 4-Hour Work Week. Mm. Et alors c'est en gros comment hacker son corps. Je ne recommande pas tous les traitements qui sont à l'intérieur parce que lui, c'est les trucs qu'il a testé sur lui. Oui, enfin, tu vois, c'est un peu le régime bêta version. Enfin bon, bref, il a tout testé, ça change tout, ton poids, machin, ton muscle, ta vie sexuelle. Enfin, c'est absolument merveilleux. Et c'est lui qui justement a poussé Phil Libin à dire voilà, pèse-toi, regarde le relevé, regarde ton poids. Et Phil Libin, de manière presque organique comme ça, sans faire de régime particulier, a perdu du poids. Donc l'information sur ton poids est le premier truc qui te fait maigrir.
Écoute, 129 euros, c'est pas donné pour une balance, mais si ça peut me permettre de perdre mes quelques kilos que j'ai en trop.
Exactement, ça c'est le truc de best money I ever spent.
Écoute, il est possible que Numéricable paye ma balance. Avec son sponsoring, il n'y a pas de raison.
Exactement.
C'est un objet tech intéressant. Bon, écoutez, on arrive donc à la fin de l'émission. Oui, vous êtes triste, je vous entends pleurer derrière vos écouteurs. Mais malheureusement, ça doit arriver à un moment. Et ce moment, c'est maintenant. Mais nous avons tout de même des solutions si vous voulez entendre un petit peu plus de nos animateurs. Cédric Ingrand, lui, est disponible sur toutes sortes de réseaux sociaux et dans toutes sortes d'émissions qu'il va nous détailler immédiatement.
Alors là, c'est l'été, donc c'est la pause.
Donc il est sur la plage à côté d'Ajaccio.
Et pourtant, magie de la télé, Simone. On a sélectionné avant de partir en vacances les 14 meilleurs plein écran qu'on a fait pendant la saison et qui sont en rediffusion à raison de 2 par semaine. Mais évidemment, vous pouvez aussi aller rechercher toute l'archive qui se trouve sur tf1news.fr.
Mais qui a décidé lesquels étaient les 14 meilleurs?
Et démocratiquement, c'est moi.
D'accord.
Voilà. Donc, c'est l'avantage des équipes un peu short, quoi. Enfin, c'est-à-dire que quand on n'est pas 15 à se mettre autour de la table, au moins, ça simplifie le processus de décision. Mais, donc voilà, on a pris des émissions tournées aux États-Unis, au Japon. Il y a plein de trucs vraiment, vraiment très bien, qui valaient le coup d'être revus si on les avait ratés la première fois. Mais là encore, de toute façon, tout est en ligne.
Magnifique. Et donc des réseaux sociaux, c'est Cédric sur Twitter.
Cédric Ingrand sur Google Plus, Cédric Cédric sans accent sur Twitter et sur Facebook. Moi, je sais pas, il y a des gens qui veulent maintenant être mes amis sur Facebook, mais allez plutôt me chercher sur
Google Plus.
Ouais, je pense que c'est un peu le sens de l'histoire là.
Cédric, merci. Lionel, alors ce qui est bien, c'est que tu fais une émission sur NoWatch.net et ce qui est parfait, c'est que tu as pris des vacances. Oui. Donc, je propose aux gens de ne pas aller écouter ton émission en punition.
C'est vrai, mais en même temps, tu vois, j'étais rassuré d'être invité dans le rendez-vous tech parce que je suis toujours un peu, j'ai toujours des scrupules de m'arrêter pendant l'été.
Non, mais je vais pouvoir te faire culpabiliser encore plus, en fait. Oui. Tu te rends compte, tous ces auditeurs qui veulent écouter les éditions suivantes.
Oui, c'est terrible. Mais bon, alors ils ont une trentaine quand même d'épisodes à écouter ou à réécouter, plus de 30, je sais plus où on en est. Et puis, ma foi, la rentrée de Techno IT, c'est prévu début septembre. Et puis, alors l'actualité est très chargée, donc là je suis en train d'amagasiner pas mal d'informations.
Il va nous faire un épisode de 5h12 pour le premier.
La sélection va être difficile.
Mais
donc
en
Techno
cas...
IT.
Exactement. Et c'est vrai que c'est l'occasion d'aller écouter les anciens épisodes. L'avantage, bon, pour certaines émissions qui sont un petit peu plus d'actualité, c'est moins intéressant, mais pour une émission comme Techno IT qui parle beaucoup, bon, il y a une part actualité bien sûr, mais il y a aussi une part informative sur l'univers des IT en général, et ça, ça reste valable, enfin ça reste intéressant même longtemps après. Donc
oui, c'est vrai.
Si vous faites partie du merveilleux monde de l'administration système, de responsable IT, tout ça, c'est une émission que je vous encourage à aller découvrir.
Wow. Patrick, un truc, on a oublié et on va tous les deux se faire rappeler à l'ordre, mais grave de grave. C'est notre ami Jérôme qui dans la chatroom dit bah, vous avez oublié de parler de Zapcast dans lequel il y a Cédric ce mois-ci.
Oh, mon Dieu,
huge.
Mais en fait, j'allais le faire après.
Non, mais moi c'est le muscacor, c'est le soleil qui me font délirer. Mais
non, mais j'allais le faire après en fait, bien sûr. Ah. J'avais pas du tout oublié, c'était prévu, je l'avais écrit. Attends.
C'était écrit.
Voilà, voilà, c'était écrit.
Et d'ailleurs, là, dans les notes, c'est écrit. Mais oui, évidemment. Alors oui, Jérôme et tout ça, nos petits amis de Zapcast sont venus me voir il y a maintenant presque 6 semaines, et ils sont venus visiter TF1. Ils ont vu le 20h en direct, c'est vrai. Et puis après, on a fait une très 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 longue interview dont je pensais qu'ils garderaient une vingtaine de minutes, et ils en ont gardé beaucoup 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 plus que ça. Donc faut m'aimer beaucoup pour le regarder, hein. Vraiment, je, enfin, c'est sinon c'est vraiment une punition, moi je trouve, parce que je l'ai regardé. mais on s'est beaucoup amusé à le faire, et c'était rigolo, c'était vraiment, ils ont été absolument charmants, adorables, et on est allé manger dans un resto du Sichuan après, un truc je vous raconte pas, mais si tu veux je t'emmène quand tu veux. Et voilà. Et dernière chose, il y a une question dans la chatroom, parce que l'autre chose dans laquelle on me retrouve d'ordinaire, c'est On refait le Mac, le podcast de mon ami Olivier Frigara, et on me dit qui est Monsieur X, Monsieur X, le responsable d'Apple qui avance à visage masqué et qu'on voit et qu'en fait on ne voit pas dans le podcast. Eh bien, je vais profiter de cette émission pour vous révéler enfin la véritable identité de Monsieur X, qui s'appelle.
It's a trap.
It's a trap.
Je sens pris le truc venir. Oui, non, mais effectivement, moi, j'ai dégusté le Zapcast avec Cédric, et je dis pas ça parce que t'es là, je le pense vraiment. Bon, si je le pensais pas, je le dirais quand même parce que je suis poli. Mais non, c'est vrai, il est vraiment intéressant. Et Cédric, qui est souvent contraint dans qui a souvent des contraintes de temps dans certaines, même ici, même dans le rendez-vous tech, on est quand même un petit peu contraignant. On est limité. Il s'est lâché dans cette émission, dans ce Zapcast. Bon, je dis il en parlant de toi, hein, Cédric, mais c'était hyper intéressant, et c'est un petit peu une vision des médias et de ce dont vous parlez qu'on prend souvent pas le temps d'avoir, et un recul qu'on a souvent pas le temps de prendre. Donc si c'est ce genre de choses vous intéresse, je vous recommande vraiment d'aller voir Zapcast, l'épisode avec Cédric, parce que il est passionnant.
On y parle du monde du podcast, de la télé, de la convergence des médias, de plein de choses, mais
la manière dont tout ça s'est passé.
Le seul truc dont je me remets pas, c'est les lancements au début de Jérôme et tout. Enfin, j'ai l'impression que j'ai trouvé mes fanboys. c'est-à-dire qu'au début, j'écoute les lancements et je me dis ah bon non, ça doit pas être avec moi, ça c'est pas possible. Bref.
C'était pour te mettre à l'aise, pour que tu te mettes à parler un peu plus longtemps que d'habitude.
Oui, c'est ça. Oui, vil flatteur.
Pour moi, ça sera, bah, c'est sur patrickbeja.com, où j'ai fait, alors, ces derniers temps, j'ai un article par semaine sur Google+. Donc, si c'est un sujet qui vous intéresse, allez-y. Et puis, sinon, sur vous avez les liens vers tous les réseaux sociaux et les autres podcasts que je fais sur ce site. Et bien sûr, je vous recommande aussi d'aller sur le site nowatch.net, parce que certains podcasts sont en pause estivale, mais ça veut dire que si vous êtes généralement en train d'écouter ces podcasts-là, Techno IT au hasard, soit vous allez écouter les anciens, soit, alors c'est simple, si vous n'écoutez généralement pas Techno IT, vous allez écouter les anciens épisodes de Techno IT. Si généralement vous écoutez Techno IT ou d'autres qui sont en pause et que vous n'avez plus rien à vous mettre sous la dent, vous allez sur nowatch.net, et là vous découvrez des podcasts merveilleux qui, eux, ne sont pas en pause, comme au hasard Zapcast, mais il y en a d'autres. Et vous venez sur le blog du Rendez-vous Tech et vous me remerciez parce que je vous ai fait découvrir des épisodes super cool. Deal ? Deal, ok.
Et si vous appelez maintenant, on vous offre des couteaux à steak.
12 pour le prix de 6. Eh bien, écoutez, sur ces bons mots, on va se quitter et on se donne rendez-vous dans 2 semaines pour un autre épisode du Rendez-vous Tech. Je remercie très chaleureusement Lionel, Cédric et toute la chatroom qui est restée jusqu'au bout. Merci à tous. À la prochaine.
Ciao,
bonsoir. Ciao.
Mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Grainger, we're here for you, with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgrainger.com or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.